Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Je suis ravie d'être avec vous jusqu'à 20h pour analyser, décrypter et débattre de l'actualité de la semaine. Au programme, à 18h15, Robert Ménard, le maire de Béziers, sera mon invité. Dès 18h30, ça fait débat, les urgences s'essoufflent, l'eau manque. Est-ce l'été en France de tous les dangers? Et puis, à 19h15, on revient sur les tensions entre la Chine et les États-Unis à Taïwan. L'ambassadeur de Chine en France sera mon invité. Mais pour le moment... Il est 18h et vous êtes sur Europe 1. 18h, votre journal. La France va de nouveau suffoquer la semaine prochaine avec une nouvelle vague de chaleur, la quatrième depuis juin. La cellule de crise interministérielle a été activée. Le Conseil d'État a 48 heures pour trancher sur la suspension d'expulsion de l'imam Hassan Iqwissen. Le tribunal administratif avait estimé que cette expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les tensions entre la Chine et Taïwan ne redescendent pas. Taïwan accuse Pékin de simuler une attaque de l'île. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de son côté, a demandé à la Chine de ne pas prendre en otage les préoccupations mondiales. Et puis... L'actualité, c'est aussi la météo avec votre tendance, Anthony Kazmarek.
Et encore une journée pleinement sèche et ensoleillée pour demain, sauf sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne Corse où quelques orages se déclencheront. Les températures, encore de saison pour la dernière journée au nord et toujours très chaude dans le sud. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1. La vague de chaleur continue de frapper fort le sud de la France et particulièrement le sud-est. Dans le Var, les températures ne descendent pas en dessous de 30 degrés. Et ces pics caniculaires, justement, impactent fortement la vie des habitants, mais aussi des très nombreux touristes qui viennent en vacances. Reportage de Thibaut Hu dans le centre de Toulon.
La main sur le front, à l'ombre d'un arbre, Mohamed souffle après une journée de travail irrespirable sous le cagnard.
Je travaille beaucoup sur la toiture. Donc, des fois, une bouteille d'un litre et demi, ma parole, il reste un petit peu. Il faut qu'on sorte le matin tôt et on arrive, il faut qu'on rentre à midi et demi. Parce que si on finit la journée, on est mort. Donc, on souffre, quoi.
Et les touristes, eux aussi, accusent le coup, tous casquettes sur la tête et bouteilles d'eau à la main. Mais selon Anaïs, une vacancière, l'après-midi, ce n'est même pas le plus dur.
Bah, la nuit, c'est le pire. Parce que la journée, ça passe encore, on trouve des moyens de se rafraîchir et tout. Mais la nuit, quand il n'y a pas d'air, c'est terrible et... J'avoue que moi j'ai un peu du mal à dormir en ce moment. Une douche juste avant de me coucher et après je patiente.
Un ras-le-bol aussi du côté des commerçants. Richard tient la grande roue sur une place ensoleillée du centre de Toulon et il perd de nombreux clients.
Ah ben les après-midi sont un peu compliqués. Les gens ils passent et puis ils traversent vite pour aller se mettre à l'abri quoi. Sur la place, l'après-midi, il fait très chaud. Hein. On fait pratiquement 75% du chiffre d'affaires entre 20h et minuit. Quoi.
Et le calvaire n'est pas prêt de s'arrêter. La température ne descendra pas en dessous des 30 degrés d'ici la fin de la semaine prochaine. À Toulon, Thibaut Hue, Europe 1.
Notre invité, Jean Jouzel, bonjour. Vous êtes climatologue.
Bonjour, Jeanne Baron.
C'est le quatrième épisode de canicule depuis le début de l'été. Jean Jouzel, est-ce qu'on va vivre comme ça, à chaque semaine, sa canicule?
Non, probablement pas.
Ah.
Il se peut tout à fait que l'été prochain, l'été 2023, soit normal ou même pluvieux, ça arrivera. Mais de façon inéluctable, eh bien, nous aurons des sécheresses, des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Ce ne sera pas chaque année, mais en moyenne, eh bien, cette intensité des sécheresses va être une des caractéristiques des prochaines années à cause du réchauffement climatique lié lui-même à nos activités, c'est très clair, mais aussi des vagues de chaleur à répétition.
Mais Jean Jouzel, pourquoi cet été en particulier? On a l'impression que c'est vraiment l'été de tous les dangers. On nous avait averti sur le fameux réchauffement climatique, mais là on se prend tout d'un coup. Comment est-ce que vous l'expliquez scientifiquement?
Oui, alors c'est justement la conjonction de ces deux phénomènes. Bon, on le sent bien, vagues de chaleur, sécheresse. Leur combinaison, eh bien, c'est d'abord des problèmes pour beaucoup de secteurs d'activité, le secteur agricole, le tourisme, l'énergie, avec la difficulté de refroidir les centrales nucléaires au niveau où il serait souhaitable. Bien sûr, l'alimentation, même dans certains pays. Donc la sécheresse est là, et puis aussi les risques de feux de forêt. C'est vraiment la conjonction de ces deux phénomènes qui risquent de devenir plus fréquentes. L'absence de précipitations depuis une très longue période qui marque cet été et qui risque encore de se poursuivre au moins une quinzaine de jours. Ça, si vous devez, vous venez tout juste de le mentionner.
Oui, j'allais vous le demander justement, Jean Jouzel, pas de pluie en vue, en tout cas dans les 15 prochains jours, hein, vous nous le confirmez.
C'est ce que je comprends, oui, je ne suis pas prévisionniste, mais je fais tout à fait confiance aux prévisionnistes de Météo France, et oui, je ne crois pas qu'on aura de précipitations importantes au cours des 15 prochains jours, et je regardais les prévisions, eh bien c'est plutôt dans le sud-est de la France. Si on regarde des villes comme Nîmes, c'est de l'ordre de 35, disons que ce sera plutôt tous les jours au-delà de 35 degrés d'ici au cours des 15 prochains jours. Donc peut-être moins à Toulon qui a été cité, moins en Bretagne également où je suis, mais dans tous les cas c'est une canicule. La canicule n'est pas définie de la même façon dans chaque région française, c'est en fonction des températures moyennes, mais là nous sommes vraiment en période caniculaire. Alors la période caniculaire est aussi définie si les nuits, disons les températures de la nuit ne descendent pas en dessous de 20 degrés généralement. Mais oui, c'est aussi l'absence de précipitations. Et la conjonction, quand même, le résultat net, c'est que vague de chaleur et absence de précipitation, c'est aussi l'augmentation de l'évaporation. Donc les sols souffrent énormément. Et donc les milieux agricoles, toute la profession agricole, viticole également, peut souffrir de ces sécheresses.
Eh bien, merci Jean Jouzel, vous êtes climatologue. Merci pour toutes vos explications. L'actualité, c'est aussi cette décision du tribunal administratif de Paris qui a suspendu vendredi l'expulsion de l'imam du Nord, Hassan Iqiyoussen, vers le Maroc. La Cour a estimé que cette expulsion porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Une victoire donc pour le député NUPES du Nord, David Guéraud, qui était l'invité d'Europe Soir Weekend.
Je défends une idée de la justice de ce pays qui n'est pas une justice expéditive, où le ministre de l'Intérieur dit ce qu'il veut, annonce comme ça une mesure d'expulsion au mépris de toutes les règles administratives. Et d'ailleurs, j'ai raison, parce que le tribunal administratif me donne raison. Le tribunal administratif, ce n'est pas la France insoumise.
Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé faire appel devant le Conseil d'État de cette décision du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'État a donc 48 heures pour trancher l'appel de Gérald Darmanin sur la suspension d'expulsion, ce qui nous amène au plus tard à dimanche. Bonsoir Hassen Chalgoumi.
Oui, bonsoir madame.
Vous êtes l'imam de Drancy en Seine-Saint-Denis. D'abord, une réaction sur cette décision du tribunal administratif qui suspend l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen. Est-ce que vous pensez, monsieur, que la loi est questionnable en France?
Tout d'abord, je voulais dire que je respecte l'état de droit en France et donc la décision du tribunal administratif. Et en même temps, j'apporte tout mon soutien au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, à raison d'appeler et de faire un appel au Conseil d'État, car nous ne pouvons pas tolérer que la jeunesse française de confession musulmane et tous les Français ne soient pas protégés des discours haineux. Et l'islamisme qui gangrène l'esprit. Pardonnez-moi, j'ai entendu dans votre au début de que le tribunal administratif évoque une atteinte à sa vie privée.
Une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, oui.
Oui, personnellement, je pose la question à tous ces magistrats. Pensez à toute cette jeunesse qui s'est fait manger leur cerveau par le discours de haine. On a plein de vidéos, vous pouvez regarder de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ces jeunes qui font malheureusement le pire maintenant à ces prêcheurs leur disent que l'Occident ne veut pas d'eux, ça c'est le discours de Hassan Iqiyoussen, et que l'islam est le contraire de l'Occident perdu. Et pourtant ils vivent en France.
Mais Hassan Chalgoumi, est-ce que vous avez vu les nouvelles vidéos justement d'Hassan Iqiyoussen qui font beaucoup de vues? On a presque l'impression que cette affaire lui a donné un coup de boost sur YouTube, où il réfute les accusations d'homophobie notamment, ou de ne pas vouloir que les femmes soient sur un même pied d'égalité que les hommes. Est-ce que vous avez vu ces vidéos qui prennent pour le coup beaucoup d'ampleur? Est-ce que ça n'a pas été un peu antinomique par rapport aux résultats qu'on voulait obtenir? Est-ce que ce n'est pas contre-productif? Qu'en pensez-vous?
Moi, je veux vous dire une chose. Cet homme, il est plus influent que Tariq Ramadan en France. Cet homme, il est très influent comme Abdelhakim Sefrioui. L'homme, il est inculpé dans l'assassinat de Samuel Paty. C'est une vérité. C'est une confrontation d'idées et débats entre un État de droit, un État souverain, entre un État aussi laïque face à des islamistes. Et ça, on a vu, regardez le tsunami de soutien, soi-disant, sur les réseaux sociaux, sa vidéo qui part, tout ça. Ça, c'est normal. C'est une confrontation. On est obligé. Allez sur ma page, vous allez trouver plein de menaces de mort. C'est une minorité, c'est pas la majorité, c'est une minorité. Et cette minorité, il faut le confronter par la loi, par la fermeté, pas, pardonnez-moi, à certains élus qui mélangent islam et islamiste, musulmans et islamistes, parce que pour moi, les insoumises, les musulmans, c'est les islamistes, pareil.
Pourquoi ? Là, c'est de l'islamisme clientéliste pour certains élus, c'est ça que vous voulez dire ?
Absolument, bien sûr, c'est une honte. C'est une honte, ils écoutent les discours de 2004, antisémites, quelques années après on a eu Mira, quelques années on a eu Medina Mouche à Bruxelles, quelques années on a eu qui ? On a eu Koulibaly, il y a 4 morts, on a eu Charlie, c'est un pays malheureusement jusqu'à aujourd'hui il est blessé. On a 300 morts.
Je vous sens très atteint dans votre cœur, Hassen Chalgoumi. Est-ce que, je reviens sur la première question que je vous ai posée. Est-ce que d'après vous, il y a tout de même un problème juridique dans ce pays et qu'il faudrait peut-être revoir la loi ? Est-ce que vous seriez pour ?
J'espère et j'appelle tout mon cœur que le Conseil d'État, ignore notre honneur. Que le Conseil d'État, il sait que la gravité des choses, au lieu de penser à la famille privée de M. Kossian, pensez à moi, que je suis séparé de ma famille à cause de menaces de mort. Pensez à des familles qui sont en train de pleurer leurs enfants, ils sont en train de partir en Syrie, en Irak, on est en train de laver leur vie. Ça, j'espère qu'ils vont imposer la règle, ils vont l'expulser. C'est un islamiste, ni imam, ni français.
Donc pour vous, vous rejoignez Gérald Darmanin. On ne peut pas vivre en France si on ne porte pas la République dans son cœur, c'est ça ?
Non, je le partage. L'amour de la patrie, cette France laïque, elle m'a donné 2 millions de prières. Cette France laïque, elle a donné la liberté de croire, de n'importe croire. Cette France laïque, elle a donné tout le respect à tout le monde. Et je ne veux pas qu'il pourrisse cette jeunesse qui sont nés sur la terre de Voltaire. J'espère qu'une jeunesse éclairée, qu'elle croit dans son cœur, mais elle respecte ses valeurs et la vie humaine.
Hassen Chalgoumi, vous étiez en Israël il n'y a pas très longtemps pour délivrer justement un message de paix, encore une fois, des musulmans sur place. De nouveau, ça éclate à Gaza. Une réaction. Est-ce que le message de paix, c'est pas encore une fois à contre-courant ?
Vous savez, c'est très difficile. Cette région, il est très difficile. Mais il y a des moments, malheureusement, il y a des tensions. Mais en général, ça se passe bien. J'ai vu des Palestiniens, Israéliens qui vivent ensemble. Là, si on parle de Gaza, on parle de Hamas, de l'Jihad l'Islami. Ce sont des... La population de Gaza et Gazaoui sont otages de l'islamisme, otages de Hamas. Comme nous, malheureusement, otages du discours de Hassan Kouissem. Hassan Kouissem, pour lui, il adhère les idées de Hamas. Il adhère aussi les idées de un, il s'appelle Ahmed Yassine. Ahmed Yassine, c'est le fondateur de Cheikh Yassine, le fondateur de Hamas, qui assassine les Palestiniens avant les Israéliens. Nous, en prions. Nous, notre rôle en tant que Français musulmans, ramener ces jeunes pour aider la paix, pour aider le dialogue, parce qu'on ne veut pas par la haine et par la guerre, mais par la voie de...
Alors, j'entends votre parole. Une dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais vraiment une dernière question. Et permettez-moi cette question un peu disruptive, Hassen Chalgoumi. Est-ce qu'aujourd'hui, votre parole, elle est audible ? Est-ce que vous n'êtes pas encore une fois à contre-courant ?
Je veux vous dire, moi, s'ils cherchent des voix derrière moi, il n'y a pas de voix. C'est ma voix qui est celle-là. S'ils cherchent des ambitions électorales, il n'y a pas. C'est avoir la voix de courage. Je suis un soufi. Les 2%, ils vont changer les 98%. Il faut avoir une voix courageuse. Défendre le pays où on vit et notre foi, celle foi de l'amour et du respect de l'autre.
Merci beaucoup, Hassen Chalgoumi, d'avoir été mon invité aujourd'hui pour Europe Soir Weekend. Les tensions entre la Chine et Taïwan sont toujours très vives après la visite de Nancy Pelosi. Taipei accuse la Chine de simuler une attaque de l'île alors que Pékin poursuit ses plus importants exercices jamais organisés autour de Taïwan. Les explications d'Alexis Guilleux.
Oui, les actions de la Chine punissent le monde entier, estime la Maison-Blanche, car le changement climatique ne connaît pas les frontières. Nouvelle dégradation des relations déjà très froides entre les deux premières puissances mondiales, car au-delà des discussions sur le climat, Pékin a également annulé un entretien avec les responsables militaires américains. Une réaction infondée, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Les actions de la Chine en ce moment sont fondamentalement irresponsables. Il n'y a pas besoin et aucune raison à cette escalade. Rien n'a changé dans notre politique d'une seule Chine. Rien n'a changé.
Washington a également convoqué l'ambassadeur chinois aux États-Unis pour dénoncer les exercices militaires en cours autour de Taïwan. En revanche, pas question de couper le dialogue côté américain. Nous gardons ouvertes nos lignes de communication avec Pékin, assure la Maison-Blanche. La semaine dernière, Joe Biden et Xi Jinping s'étaient accordés sur le principe d'une rencontre en personne, la première entre les deux chefs d'État. Des discussions plus que nécessaires selon l'ONU qui juge impossible de résoudre les problèmes les plus pressants du monde sans un dialogue et une coopération efficace entre la Chine et les États-Unis.
Alexis Guillaume, notre correspondant aux États-Unis pour Europe 1. Allez, on va regarder le ciel maintenant.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriad, partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com.
Toujours un temps sec, demain Anthony Kaczmarek. Mon sourire, c'est pas du tout pour le temps sec, c'est le plaisir de vous retrouver sur ce studio.
Eh bien, c'est très gentil, merci beaucoup Jeanne. Mais effectivement, malheureusement, demain, toujours un temps sec. Et comme pour les 7 prochains jours, sur tout le pays, sauf sur les reliefs, sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur le relief Corse, où là nous aurons des orages, mais uniquement en fin de journée, et ils seront sans doute un peu moins violents qu'aujourd'hui. Nous aurons toujours du vent de nord-est sur la moitié nord qui va un peu rafraîchir l'atmosphère, et toujours ce Mistral et cette tramontane dans le sud-est qui vont renforcer le risque d'incendie. Ils souffleront demain entre 40 et 50 km/h en rafale. Les températures, toujours de saison au nord et un peu fraîches même au réveil. Nous aurons 8 degrés à Charleville-Mézières, 13 à Lille et à Strasbourg, 14 à Paris. Toujours chaude au réveil dans le sud-est avec 21 à 25 degrés près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, 24 à Brest, 26 à Lille, 28 à Paris, 30 à Strasbourg, 31 à Lyon et Nice, mais encore 35 degrés à Montpellier, 36 à Marseille et à Nîmes. Deux départements restent en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse.
Merci beaucoup Anthony Kaczmarek, on vous retrouve après le journal de 18h, à 19h décidément, à suivre sur Europe 1. Robert Ménard, maire de Béziers, sera mon invité. La place de la droite dans le paysage politique a-t-elle évolué? On en parle dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Vous êtes sur Europe 1, il est 18h16. Le portefeuille des Français est mis à rude épreuve. Les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur la loi pouvoir d'achat et sur le budget rectificatif. La place ayant pesé très lourd dans la balance, la place de la droite notamment. Bonsoir Robert Ménard.
Bonsoir.
Vous êtes le maire d'Hiver Droite de Béziers. Robert Ménard, en avant-propos, j'aimerais qu'on revienne sur cette actualité forcément sur laquelle nous parlons depuis hier, cette décision du tribunal administratif, cet imam Hassan Iqwissen qui ne sera pas expulsé. J'aimerais tout d'abord avoir votre réaction, mais avant tout, écoutons ensemble David Guiraud qui était mon invité hier dans Europe Soir.
Je défends une idée de la justice de ce pays qui n'est pas une justice expéditive, où le ministre de l'Intérieur dit ce qu'il veut, annonce comme ça une mesure d'expulsion au mépris de toutes les règles administratives. Et d'ailleurs, j'ai raison, parce que le tribunal administratif me donne raison. Le tribunal administratif, ce n'est pas la France insoumise.
Le tribunal administratif a donné raison à David Guiraud.
Écoutez, j'en reste pantois, stupéfait. David Guiraud, il ne défend pas l'État de droit, il défend les islamistes. Ce n'est pas la même chose. C'est lui et ses petits copains qui...
C'est une attaque grave ce que vous dites aujourd'hui, là, Robert Ménard. Il défend les islamistes.
Et bien sûr qu'ils défendent les islamistes. Quand ils vont manifester avec les islamistes dans les rues de Paris en criant à côté, où il y a des gens à côté d'eux qui crient à la Akbar, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois qu'il faut choisir entre les islamistes et la République et notre civilisation et notre culture, ils sont toujours du même côté.
Vous voulez dire que David Guiraud est dans la rue et qu'il dit à la Akbar, Dieu est grand?
Non, je ne vous ai pas dit ça, madame. Je vous ai dit qu'ils ont manifesté, lui et ses amis, à côté de gens qui criaient à l'Akbar dans les rues de Paris.
D'accord.
Vous avez un tout petit peu de mémoire, comme moi. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'État de droit se retourne contre ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire défendre nos démocraties.
Et je suis... Alors, Robert Ménard, est-ce qu'il faut réformer la loi?
Et j'applaudis le ministre de l'Intérieur qui va faire appel de cette décision.
Décision qui devrait être rendue dans le week-end, dimanche ou plus tard. Est-ce qu'il faut réformer cette loi, alors, Robert Ménard?
Mais écoutez, là, il y a un grand débat qui va se mener. Vous avez vu, le ministre de l'Intérieur a annoncé un grand débat sur l'immigration. J'espère que ce sera l'occasion de s'interroger sur comment quelqu'un qui tient des propos propos antisémites, homophobe, qui déteste les femmes, qui dit qu'il y a des statuts différents entre les femmes et les hommes, que quelqu'un comme ça ne soit pas sanctionné. Mais il n'a pas sa place dans notre pays. Il n'a pas sa place. Et on m'explique que c'est en raison du droit à sa vie familiale. Mais je m'en contrefous de sa vie familiale. Je me contrefous que ses 5 enfants et ses 15 petits-enfants lui servent de prétexte, d'excuse pour ne pas être parti de ce pays. Il n'a rien à faire dans notre pays.
Grand débat auquel ne participera pas Robert Ménard. La France insoumise, comme nous l'a confirmé hier David Guiraud. Alors que faut-il faire pour le cas Iqwissen, d'après vous?
attendez, la France insoumise ne participera pas d'abord. Déjà, ils décident de ne pas, ou ils annoncent qu'ils ne participent pas à un débat. Moi, je participe à tous les débats avec tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec M. Darmanin sur plein de points. S'il me donne l'occasion de discuter d'un certain nombre de sujets où on pourrait enfin trouver un consensus, je vous rappelle qu'il y a des sondages où il y a 90% des Français qui expliquent que des gens comme ça ne doivent pas rester en France. Sur la question de l'immigration, il y a plus de 70% des Français qui disent qu'il faut pas qu'il faut supprimer l'immigration, c'est une absurdité, mais qui disent qu'il faut mieux la contrôler. Je pense que oui, il ne faut pas que demain l'État de droit, et je me suis battu toute ma vie pour défendre l'État de droit, j'étais le patron pendant plus de 20 ans de Reporters sans frontières, mais je ne voudrais pas que cet État de droit, que ces règles qui sont censées protéger notre démocratie se retournent contre elle.
Alors Robert Ménard, vous venez d'expliquer justement que vous n'êtes pas toujours d'accord avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais en l'occurrence la droite reprend du poil de la bête, notamment à l'Assemblée et au Sénat. Finalement, le gouvernement, il vous fait les yeux doux ?
Mais écoutez, le gouvernement, il fait les yeux doux aux Républicains qui siègent à l'Assemblée parce qu'il a besoin d'eux. Aujourd'hui, les Républicains, ils font la pluie et le beau temps, vous l'avez remarqué. Le gouvernement est capable de changer d'avis quand il voit que les Républicains votent pour ou contre. Et en plus, les Républicains sont largement majoritaires dans le Sénat. Oui, jamais un parti comme les Républicains, qui a été au fond un parti jamais aussi faible depuis des années, pèse autant dans la vie politique française. On peut s'en réjouir si on est républicain, parce que je ne suis pas membre de ce parti. On peut s'étonner aujourd'hui qu'on retourne à une espèce de règle de la 4e République où il suffit d'avoir deux fois moins de députés que la précédente mandature et pourtant peser 10 fois plus.
En tout cas, on peut s'étonner que les votes de droite rejoignent largement ceux du pouvoir en place. La droite est-elle encore une force d'opposition ?
Écoutez, ça dépend. Quand le gouvernement propose de supprimer la redevance, j'ai du mal à imaginer qu'on vote contre. Et la droite a raison de le faire. Ce serait d'ailleurs l'occasion de s'interroger, j'espère qu'on le fera dans les mois prochains, sur le service public, sur ce service public pléthorique. Quand la droite explique, oui, sur le rachat possible, c'est des RTT, qui est une façon, disons-le, de détricoter les 35 heures, bien sûr que la droite a applaudir et a voter dans le même sens que le gouvernement. Ça fait des mois que j'explique qu'aujourd'hui, il faut arrêter ce jeu politicien qui fait dire que parce qu'une idée vient de quelqu'un qui n'est pas de votre bord, elle est par définition mauvaise. Moi, je pense que...
Donc,
si
vous plaidez pour une opposition constructive qui ne va pas forcément à l'inverse du pouvoir, mais qui va dans la même direction. Si ça sert la République, c'est ça que vous voulez dire ?
Attendez, quand M. Macron dit quelque chose où il a raison, j'applaudis M. Macron. Quand M. Darmanin, on vient d'en parler, prend un certain nombre de mesures ou tient un certain nombre de propos nouveaux dans sa bouche, j'applaudis. Quand M. Darmanin dit les députés de la France insoumise et le Rassemblement national sont mes ennemis, je trouve que c'est un propos absurde. J'essaye chaque fois de ne pas mesurer à l'aune de est-ce que je suis de leur avis politiquement ou pas, mais simplement à l'aune, est-ce que c'est bien pour ce pays, est-ce que c'est bien pour nous, voilà.
Vous avez justement appelé à faire naître une culture de compromis et de modération. C'est de ça là dont vous nous parlez, Robert Ménard ?
Oui, je pense qu'en France, on a l'impression tout le temps, vous savez, que le compromis, la négociation, l'accord, ça ressemble un petit peu, c'est un peu un arrière-goût de compromission. Je pense que c'est une absurdité. Mon métier de maire m'apprend ça. Mon métier de maire m'apprend que les gens, ils sont compliqués. Les choses ne sont pas noires et blancs. C'est difficile, souvent, de trouver des solutions. Moi, vous savez, je ne critique pas forcément le gouvernement parce que je me dis, écoutez, est-ce que je ferais mieux ? Est-ce qu'on ferait mieux à sa place ? Je n'en suis pas toujours sûr. Mais quand je vois un certain nombre de gens de ce gouvernement dire par définition tout ce qui vient de notre droite ou de notre extrême gauche ou de notre extrême droite, par définition, c'est erroné, je suis abasourdi. J'espérais, parce que peut-être je suis en train de me tromper, j'espérais que chacun serait un peu plus humble. Le gouvernement, M. Macron, il n'a pas perdu les élections. Il ne va pas gagner du côté de la NUPES ou du Rassemblement national. On n'a pas gagné les élections. On les a moins perdues qu'on pensait les perdre.
Est-ce qu'il n'y a pas ici un problème de positionnement, Robert Ménard ? Est-ce qu'ici, il n'y a pas un problème de positionnement ? Les Français ne se sentent peut-être pas assez bien représentés, en tout cas ne s'y retrouvent plus. Je vous donne un exemple. En tout cas, en ce qui vous concerne, votre parrainage d'abord à Marine Le Pen, pour qu'elle puisse se présenter aux dernières présidentielles. Vous avez aussi soutenu Éric Zemmour, même si aujourd'hui vous êtes fâché. Vous nous l'expliquerez ou pas. Est-ce que votre cœur, il est à droite ? Ou est-ce qu'il est à droite de la droite ? On a aussi du mal à se positionner avec vous, Robert Ménard.
Mais vous avez du mal à se positionner avec moi parce que vous n'aimez que les choses simplistes.
Absolument. Attendez, pas. En revanche, si vous nous expliquez où vous positionnez,
attendez,
ce sera plus simple.
Je rigole. Je vous explique. Vous me dites sur Éric Zemmour. C'était mon ami, Éric Zemmour. Pendant 20 ans, on a été plus que copains. Ouais, j'étais favorable à sa candidature. Simplement, je pensais que sa candidature, ce serait une candidature voilà, qui unirait la droite. Je suis quelqu'un de droite, qui unirait la droite.
Enfin, en l'occurrence, Éric Zemmour, il était à droite de la droite. Donc vous voulez unifier quoi ? La droite avec la droite de la droite ?
Non. Je pensais
parce que là on ne comprend pas.
Ben, écoutez, j'ai essayé de vous expliquer. Je
sans vouloir être simpliste.
Hein. Tombe... Pardon ?
Allez-y, Robert Mélard, sans vouloir être simpliste, mais expliquez-moi.
Oui, je vous explique que sur un certain nombre de positions d'Éric Zemmour, quand il parlait de l'immigration, je pense qu'il a raison de souligner une question que toute une partie de la classe politique n'a même pas voulu régler, regarder en face. En revanche, sur les positions qu'il a avancées et les propos et la rudesse des propos qu'il a tenus pendant cette campagne électorale, j'étais en désaccord. Je le lui ai dit une fois, deux fois, trois fois. Après, on n'était plus d'accord.
Du coup, vous avez regretté votre soutien à Éric Zemmour. Est-ce que ça vous a, en quelque sorte, décrédibilisé ? Utilisons ce terme.
Bah écoutez, peut-être qu'à vos yeux, il me semble qu'on a le droit de se
dire... Non, aucun jugement de ma part. Je vous pose juste la question, oui, Robert Ménard. Qu'en pensez-vous ?
Je pense juste qu'à un moment donné, on peut défendre quelqu'un et puis on s'aperçoit qu'il prend des positions qui ne sont plus les vôtres et se séparer de lui. Sur Marine Le Pen, c'est pareil. Moi, Marine Le Pen, je pense que sur un certain nombre de questions, les problèmes d'insécurité, les problèmes d'autorité, un certain nombre de questions sur l'école, un certain nombre de questions sur l'immigration, elle pose les bonnes questions que l'immense majorité de la classe politique française n'a jamais voulu poser. Mmh. En même temps, j'ai, pendant toute la campagne électorale, continué à dire « je voterai pour toi Marine, j'appellerai à voter pour toi ». Et en même temps, sur les questions de politique internationale, je suis en désaccord avec elle. Sur les questions sociales, je suis en désaccord avec elle. Et sur un certain nombre d'autres positions, je suis en désaccord. Comment vous dire ? On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un de A à Z. Je ne suis dans aucun fan club. J'essaye juste...
Le vôtre. Vous êtes en accord avec vous-même aujourd'hui déjà, Robert Ménard ?
Que ça veut dire être en accord avec vous-même ?
Je ne sais pas.
Faites pas de l'ironie facile. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire oui, je suis en accord avec moi-même. J'essaye d'être honnête par rapport à ce que je pense. J'essaye d'être honnête et de le dire. Peut-être qu'à à la différence d'un certain nombre de d'hommes politiques et de femmes politiques, un... Quand je pense, je change d'avis, je le dis. Deux, quand je me trompe, je le reconnais sans tergiverser. Peut-être que c'est ça qui fait une voix un peu plus singulière.
Bon, d'après vous, est-ce qu'on est en train de se tromper là sur le paquet pouvoir d'achat ? Vous parliez tout à l'heure du portefeuille des Français, ça vous inquiétait. Est-ce que ce paquet pouvoir d'achat, il valorise vraiment le travail ? Est-ce qu'il va aider les Français cet hiver, comme le souhaitait la droite notamment ?
Écoutez, il y a un certain nombre de choses positives dans cette loi. Il y a un certain nombre de choses que je regrette. Alors que la droite, par exemple, avait proposé, vous savez, que les primes qui sont prévues, les 100 ou 150 euros qui seront donnés par l'État, avaient proposé qu'ils soient donnés en gros
aux bénéficiaires
aux travailleurs les plus pauvres et pas aux gens qui ont les minima sociaux. Je pense que c'est important.
Fait d'enlever les 100 euros de rentrée aux personnes qui touchaient les minima sociaux pour donner 150 euros à la rentrée aux bénéficiaires de ceux qui avaient la prime d'activité.
Oui.
C'est bien ça.
Absolument.
Donc vous êtes un insatisfait du fait que les 100 euros soient versés à la fois aux personnes qui touchent les minima sociaux et aux personnes qui touchent la prime d'activité.
Je suis favorable à aider le travail.
Mais en
je
quoi est-ce que c'est antinomique avec le fait que des gens qui touchent des minima sociaux puissent avoir une prime de rentrée ?
Parce que non, mais attendez, c'est pas antinomique, c'est juste.
Là, c'est un peu opposé.
C'est juste qu'il y a un certain nombre de gens qu'on oublie systématiquement, qui sont les gens qui travaillent, mais qui sont le plus bas dans l'échelle des salaires. Et je pense qu'aujourd'hui, un de nos problèmes, c'est que l'écart entre les gens qui ne travaillent pas, qui vivent d'un certain nombre de minimums, et les gens qui travaillent, mais qui gagnent peu d'argent, il est trop étroit.
Donc en France, pour vous, on ne valorise pas le travail ?
Le travail ne paie pas assez, madame.
D'accord.
Le travail ne paie pas assez. Et je pense que c'est un vrai choix de droite.
Eh bien, merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été mon invité aujourd'hui, le maire de Béziers d'Hiver Droite. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Il est 18h30, ça fait débat sur Europe 1. Tension aux urgences, est-ce qu'on va vivre un danger imminent? Les services d'urgence sont en grande difficulté. Manque de bras, manque de moyens, les syndicats alertent sur le risque d'une situation explosive. Bref, où en est-on? On fait le point avec mes invités, le docteur Roger Rua. Bonjour, vous êtes médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux à Paris. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Maud Petit, vous êtes député Modem des Yvelines.
Et Gilbert... Val-de-Marne.
Du Val-de-Marne, mais écoutez, on ne m'avait pas donné la bonne chose. Maintenant, je le note, Val-de-Marne. Gilbert Collard, également au téléphone avec nous, député européen, président d'honneur de Reconquête. Cette question, d'abord, vous l'avez peut-être entendue. François Brun, il l'a dit, ça a fait un tollé. Il l'a annoncé haut et fort. Les urgences ne sont pas fermées, elles sont régulées. Une réaction ici?
Les urgences, par définition, sont régulées, bien sûr. Mais ça, on le savait déjà, ce n'est pas une nouveauté. Puisque par définition, il faut réguler l'accès aux urgences. Et ça a toujours été fait. Alors, c'est fait plus ou moins bien actuellement parce qu'effectivement, il y a une notion de tension, une notion de déserts médicaux, il y a une notion de sécheresse, de canicule qui augmente le nombre de patients éventuels. Il y a évidemment l'épidémie qui a créé un problème supplémentaire. Mais la régulation se fait par les urgences, oui.
Non, mais là, en l'occurrence, Roger Rua, on dit les urgences sont extrêmement régulées parce qu'en vérité, on ferme les urgences. Il faut appeler le 15 pour savoir si c'est une urgence d'urgence.
Oui, mais ça a toujours été, dans la définition même des urgences, normalement, on devait appeler le 15 pour que le 15 puisse réguler les urgences.
À part qu'aujourd'hui, le 15 est complètement saturé et qu'il n'y a plus de bras. On va écouter ensemble, si vous le permettez, et puis Maud Petit, vous allez pouvoir parler, parce que je vois que vous avez l'envie aussi de nous dire quelque chose à ce sujet. Marc Noiset, il est le président syndicat du SAMU de France. Écoutez-le, il appuie sur les points forts aujourd'hui des problèmes que rencontrent les médecins.
On constate grosso modo, deux principales difficultés. La première, elle s'exerce sur les services d'urgence qui sont confrontés à deux forces contradictoires. On a d'une part une augmentation d'activité qui surplombe la France entière, on l'a recensée aux alentours de 12%, et d'autre part moins de lits d'hospitalisation, ce qui rend impossible l'équation de prise en charge dans de bonnes conditions des patients qui se présentent aux urgences. Et la deuxième problématique, c'est dans les centres 15, où on a également une augmentation d'activité qui est nettement plus importante, de l'ordre de 20%, liée aux difficultés pour les patients de trouver une offre de soins disponible pour leurs problématiques aiguës notamment, et d'autre part, aux différents messages qui circulent depuis le début de l'été, qui évidemment ont un impact sur notre activité.
Voilà, Maud Petit, deux problématiques. Effectivement, on manque de bras et puis on resature ce qui est saturé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors déjà, je voudrais préciser que le ministre de la Santé a utilisé les mots en indiquant que les urgences n'étaient pas fermées, parce que les urgences continuent bien évidemment à être ouvertes à l'attention des Françaises et des Français. Il y a quelques fermetures, c'est vrai, sur certains établissements hospitaliers à 21h le soir et peut-être le week-end, mais de façon générale, et il faut rassurer les Français à ce sujet, les urgences vont rester quand même ouvertes cet été.
Parce que Maud Petit, le message qui est un peu qu'on lit en tout cas en tant que Français entre les lignes, c'est vous êtes devant les urgences, passez votre chemin, sauf si vous êtes en train de mourir, très clairement.
Mais a priori, c'est ça que devraient faire les urgences, c'est justement traiter les cas les plus compliqués, les plus urgents en soi, et pas un petit bobo, pas de la fièvre forcément. Donc il faut apprendre aux Français à se souvenir de ce que veulent dire véritablement urgences.
Gilbert Collard, député européen, président d'honneur de Reconquête, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ici dans ce studio?
Écoutez, moi je suis... qu'on découvre le problème des urgences cet été. Ça fait des mois et des mois. Il y a toute une littérature, tant dans la presse que dans les médias, que dans le débat.
On vous entend mal, Gilbert Collard. On va vous reprendre dans un instant. Christophe Prudhomme, vous êtes également à distance avec nous, médecin urgentiste à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny. Est-ce que vos urgences du côté d'Avicenne sont également sous l'eau? Est-ce que c'est nouveau déjà, ou est-ce que vous avez l'habitude, malheureusement, de travailler dans ces conditions?
Oui, on a l'habitude. Ça fait 20 ans que ça dure et ça fait 20 ans qu'on fait des rapports et qu'on ne fait rien. Et là, je suis scandalisé que... vous voyez, là, bon, le parlementaire, vous avez sur le plateau, n'a pas utilisé le même terme qu'une parlementaire avec qui je débattais récemment, qui expliquait qu'il fallait rééduquer les Français. Alors, on va envoyer les Français dans des camps de rééducation parce qu'ils ne savent pas bien utiliser le système de santé. Mais c'est méprisant Et c'est se foutre de la population. Le problème aujourd'hui des urgences, ce ne sont pas des gens qui viendraient pour rien. Je pense que personne ne vient pour rien aux urgences. Il y a toujours eu quelques abus, mais ce n'est pas ça le problème. Notre problème aujourd'hui, c'est les 20% de patients qu'on doit hospitaliser et pour lesquels nous n'avons pas de lit. Vous voyez, là, je suis de garde en ce moment. J'ai pris quelques minutes pour vous répondre, parce que c'est important, au SAMU 93. Je suis dans un hôpital de l'assistance publique hôpitaux de Paris, le plus grand hôpital d'Europe. Dans mon établissement, 50% des lits sont fermés aujourd'hui par manque de personnel. Et pourquoi manquons-nous de personnel? Parce que nous assistons aujourd'hui à des démissions en masse, parce que les conditions de travail se dégradent, que le Ségur n'a rien réglé, que les promesses sur la prise en compte de la pénibilité et les augmentations de salaire ne sont pas au rendez-vous et que les gens n'en peuvent plus. Donc il y a une colère chez les professionnels qui a été attisée par François Braun, que je connais bien, je veux dire, je le connais depuis 20 ans humainement, c'est quelqu'un de très bien, mais là en tant que ministre...
Il a fait une boulette en tant que ministre, Christophe Prudhomme, d'après vous ? C'est une boulette qu'il a fait ?
Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas nier. La presse quotidienne régionale, tous les jours, parle de fermeture de services d'urgence et de fermeture sèche. On apprend le samedi que, par exemple, à Valence, eh bien, c'est pas une petite ville, Valence. Les urgences seront fermées à Valence. Écoutez, c'est pas sérieux. On est dans une situation où quand on ferme comme ça brutalement, ou quand on régule, ou quand on concentre, comme c'est le cas aujourd'hui, l'arrivée des urgences sur un nombre de sites très limité, eh bien, ça dysfonctionne. Écoutez, moi, je vais reprendre mon département, qui est quand même en Île-de-France. Vous voyez, c'est quand même... Eh bien, sur un des secteurs du département qui est les plus peuplés, où il y a une population qui n'a pas d'autre recours que l'hôpital, parce qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes, écoutez, il y avait deux cliniques privées, il y en a une qui ferme ses urgences pour tout le mois d'août, et on a l'hôpital de Aulnay-sous-Bois qui régulièrement n'arrive pas à assurer son activité correctement. Ce soir, l'hôpital de Aulnay-sous-Bois ne peut pas prendre en charge de patients en urgence, en chirurgie, parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste.
Mais ça, c'est scandaleux, voilà. Maud Petit, quand on entend un message comme ça en direct de Christophe Prudhomme, on ne peut pas le nier. Il est sur le terrain, c'est son quotidien. C'est scandaleux.
Non, mais
ça fait des années que l'hôpital public est malmené. Qu'est-ce qu'on fait ?
Je ne nie rien du tout, mais juste avant de vous répondre par rapport à ça, je voudrais juste dire mon regret d'entendre que quand on parle d'éducation, ça serait l'équivalent de Caen. D'accord ? Donc je n'ai aucun mépris vis-à-vis de la population et je ne vous permets pas de le dire. Maintenant, bien évidemment, il y a urgence à régler le problème des urgences. Ça fait effectivement quelques années que ça dure. Ça ne veut pas dire qu'aucune mesure ne sont prises pour essayer de réguler cette situation. Vous parlez de fermeture de lit. Il y a plusieurs raisons à cette fermeture de lit, qui n'est pas totale d'ailleurs, puisqu'on a pris un virage ambulatoire, ce qui fait que la population... On lui permet de sortir de l'hôpital et de ne pas avoir à rester de nuit, par exemple, en hospitalisation. Et puis, il y a un nombre de lits qui a augmenté pourtant dans la journée. Maintenant, oui, c'est vrai, il manque de personnel. Après, il faut de nouveau donner de l'attraction.
Il y avait aussi le problème des salaires, hein, Maud Petit.
Oui, tout à fait.
C'est ce que, parce que là, vous répondez justement à Christophe Prudhomme, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'on puisse comprendre ce débat. Il y a un problème de salaire, il vous dit.
On a commencé un travail, on a commencé des actions avec le Ségur de la Santé.
Il vous a dit, Christophe Prudhomme, il a servi à rien.
Il y a beaucoup de choses à faire, mais bien sûr que si, ça a servi. Je parlais avec une radiologiste il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quand même 800 euros de plus sur la fiche de paye à la fin du mois, donc il ne faut pas dire que ça n'a servi à rien. Ça a servi, ça n'est peut-être pas suffisant. Il y a probablement encore des choses à faire et le plan sur lequel le ministre de la Santé, M. Braun, a travaillé, qu'il nous a présenté, moi je suis en commission des affaires sociales, il nous l'a présenté cette semaine, et ben, on va devoir travailler dessus et le plus rapidement possible. Mais je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait et que rien n'est pris en compte.
Gilbert Collard, on vous a retrouvé, vous avez vous aussi retrouvé du réseau. On voulait avoir votre point de vue, dites-nous.
Écoutez, moi, j'ai entendu le témoignage de ce médecin. Il est profondément douloureux, profondément douloureux et respectable. Nier la réalité, bon, c'est faire de la rhétorique politique, mais personne n'est dupe. Et nier la réalité, là, c'est grave. Parce que c'est nier la souffrance, c'est nier l'abandon, c'est nier un état de désespérance dans lequel se trouvent les médecins qui ne font pas de politique, qui disent le réel. Ben, le réel, on le sait très bien ce que c'est. Hein. C'est que, comme le disait votre intervenante, il y a urgence à s'occuper des urgences. Mais attendez, on rêve. Ça fait des années que l'on sait qu'il y a un problème des urgences. Si on sort la littérature, que ce soit celle des médecins, que ce soit celle de la presse, c'est un problème qui est récurrent. Et qu'est-ce qu'on a foutu pendant des années? Alors, on va nous dire qu'il y a eu Ségur, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui... On ne peut pas nier que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Voilà.
Non, ça n'est pas que ça n'a servi à rien. Vous savez très bien qu'il y a des actions qu'on peut prendre à un moment donné et qui auront des effets beaucoup plus tard, malheureusement. Vous le savez autant que moi.
Irréel. Et vous ne rendrez pas le réel irréel. Vous êtes des bons à rien.
Bon, ça, c'est tellement facile. Ça va donner une solution au problème des urgences.
On a entendu un médecin tout à l'heure apporter un témoignage qui devrait vous faire taire. Voilà. Vous devriez vous taire et vous expliquer.
Je ne me tairai certainement pas. Je travaillerai justement avec le gouvernement et la majorité
en temps de soulever pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes un gouvernement de bon à rien.
Maud Petit.
Et on crève aux portes des urgences.
Maud Petit, votre droit de réponse ici.
Il n'y a pas de personnel.
Attendez, Gilbert Collard, laissez-la.
Laisse M. Collard terminer son...
Gilbert Collard, laissez-la répondre. Laissez-la répondre. Maud Petit, répondez.
J'ai parfaitement conscience de ce qui se passe dans les urgences en France et je ne peux pas laisser dire que j'en ai pas conscience, que je m'en contrefous. Je suis particulièrement sensible aux difficultés que rencontrent les urgentistes, que rencontrent d'ailleurs l'ensemble des personnels en milieu hospitalier. Moi, j'avais l'intention d'interpeller le ministre, je n'ai pas eu l'occasion ce soir-là, mais sur la gestion des ressources humaines, parce qu'il manque d'une gestion des ressources humaines dans le milieu hospitalier et en particulier dans les urgences. Je connais la fatigue de ces personnels, leur épuisement. Je suis particulièrement sensibilisée à ça. Et quand j'entends dire qu'il va falloir leur proposer peut-être d'augmenter un temps de travail autorisé pour compenser, par exemple pour les médecins juniors, pour compenser les absences, les arrêts maladie, etc., ça me fend le cœur. Je le dis comme je le pense, ça me fend le cœur parce que ces gens sont effectivement au bout du bout, complètement épuisé, avec un risque en plus, quand il y a une fatigue comme ça, de faute professionnelle. Donc j'ai parfaitement conscience de ce qui se passe, mais je redis encore, nous avons commencé à travailler sur le sujet, les fruits ne seront là que plus tard, malheureusement, il n'y a jamais de solution instantanée, on n'a pas de baguette magique, ça viendra et nous continuerons à travailler pour les accompagner et les épauler.
Deux minutes avant la fin de ce débat, Christophe Prudhomme, vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes très occupé, vous êtes en ce moment même aux urgences. Oui, j'aimerais vous entendre sur ça.
Ce discours me met en colère parce que, vous voyez, le bilan des 5 ans du précédent gouvernement, donc qui est toujours en poste aujourd'hui, c'est 17 500 lits fermés. C'est un échec du Ségur. C'est des démissions en masse à l'hôpital parce que les conditions de travail se dégradent. Les urgences ne sont que le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. Expliquer qu'on va demander aux gens d'aller voir des médecins généralistes en ville. Mes collègues en ville, ils n'en peuvent plus. Dans mon département, le nombre de généralistes diminue. Il y a des personnes âgées qui n'ont plus de médecins traitants parce qu'il n'y a plus de médecins disponibles. Et vous voyez, il y a 2 jours, j'étais au SAMU. Il y avait un médecin pour faire des visites à domicile pour tout le département, pour 1 600 000 habitants. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on réorganise le système de santé et il faut arrêter d'être dans le déni, de nous promettre que demain, ça ira mieux. Et voilà, enfin, ce discours politique, mais, voilà, il faut que ça change.
On a entendu votre message, Christophe Prudhomme.
Et ça, aujourd'hui, c'est quand même particulièrement irritant d'être en permanence avec des politiques qui sont dans le déni. Il y a une réalité que vivent les Français. La population aujourd'hui, je le dis, est en danger. On a eu des accidents. Il y a un enfant qui est mort dans mon département parce qu'il n'y avait pas de place dans une maternité, si c'était que les urgences. Mais c'est une femme qui a été transportée d'une maternité à une autre et finalement, elle a perdu son enfant. Voilà la situation quand même. Donc, à un moment donné, Madame la députée, il va falloir changer de discours.
J'ai conscience de ce que vous dites. Vraiment, je suis au regret d'entendre ça. J'ai parfaitement conscience de ce qui se passe. Je suis vraiment navrée et désolée pour cette mère. J'en ai mal au cœur pour elle. Je sais, ça n'est pas suffisant, mais ne me dites pas que ce que je dis, ce sont des promesses dans le vent, parce que je tiens véritablement à ce qu'on avance sur le sujet.
Et on va avancer nous aussi. Christophe Prudhomme, on vous remercie, on va revenir dans un tout petit instant, mais avant qu'on fasse une pause, c'est important pour moi de vous entendre aussi, Roger Rua, parce que vous êtes ici, à nos côtés, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous êtes médecin généraliste, est-ce que vous vous sentez aussi sous l'eau aujourd'hui? Vous avez le droit de le dire.
Alors, oui, tout le monde se sent sous l'eau aujourd'hui, parce que on confond, enfin, le problème n'est pas pris à sa source. On parle de financement, on parle de postes, on parle d'augmentation de salaire. En fait, il s'agirait, pour mettre le système en fonctionnement, de repenser l'organisation de l'offre de soins. Et pas simplement de rajouter quelques millions ici, quelques dizaines de millions là, des postes ici ou des postes là, les lits fermés. Dans les lits fermés, il y a des lits qui sont des lits ambulatoires qui sont normalement fermés, puisque c'était la décision pour optimiser. Ce ne sont pas des lits d'urgence non plus. Dans le fonctionnement d'urgence, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas que des urgences, c'est une réalité. Il y a un défaut, tout au moins de pédagogie au niveau de la population. La prévention en France, enfin on a un ministère de la Santé de la prévention. Faisons de la prévention l'axe central de l'organisation de l'offre de soins.
Merci beaucoup, docteur Roger Rua. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux à Paris. Maud Petit, Gilbert Collard, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant à suivre. Eh bien, comment est-ce qu'on a pu en arriver là aussi, sécheresse ? Cette sécheresse qui frappe tellement la France qu'il n'y aura bientôt plus d'eau potable. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
18h46 sur Europe 1, merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous. Ça fait débat cette fois sur ce quatrième pic de canicule qui arrive en France. Elle frappe le pays, cette canicule, de plein fouet encore une fois. La sécheresse qui l'accompagne prend de l'ampleur, conséquence directe. Dans plusieurs communes, l'eau potable ne coule plus. Pour en parler, nous sommes toujours avec vous, Maud Petit, vous êtes députée. Modèle du Val-de-Marne. Oui. Ouais, j'ai retenu Gilbert Collard, député également avec nous. Et puis nous avons par téléphone Laurie Caillouet. Vous êtes hydrométéorologue à Lyon et co-créatrice de la fresque de l'eau. Laurie, on a l'impression que tout arrive d'un coup cet été. C'est incroyable. Il y a plus de 100 communes qui n'ont pas d'eau potable. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Alors, la situation, elle s'explique pour le coup assez simplement. Pour cet été, on a eu des déficits de pluie sur la saison hivernale. Donc, depuis l'automne dernier, on a assez peu de pluie, ce qui a fait que les nappes se sont faiblement rechargées pendant cet hiver. La recharge, deux tiers des nappes sur le territoire ont vu une recharge s'arrêter au mois de janvier au lieu de mars-avril habituellement. Et il faut savoir que deux tiers de notre eau potable, ça vient de ces nappes. Donc, la faible pluviométrie est en cause sur les nappes, sachant que les gros orages de juin n'ont pas forcément permis ont permis de donner un peu de souffle aux végétaux, mais n'ont pas permis de vraiment recharger ces nappes. Mmh. Et en plus, on a des vagues de chaleur qui font que, sachant qu'on n'a pas d'eau qui rentre, on a pour le coup de l'eau qui sort à cause de ces vagues de chaleur.
Effectivement, ça s'explique
simplement.
Et donc,
pas mal d'évaporation.
Oui, bien sûr. Il reste 23 jours en Corse du Sud et en Corse du Nord, encore moins, d'eau potable. Là, ils sont en train de se dire, on va dessaler. Maud Petit, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ?
Eh bien, malheureusement, par un manque d'action, il y a eu des prises de conscience et puis des prises de décision. Et puis, malheureusement, il y a des États qui se sont engagés, par exemple, dans les accords de Paris en 2015 et puis qui ne les appliquent pas. Donc, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a probablement, je crois, un tiers des pays seulement qui ont pris des mesures suffisamment fortes pour pouvoir réguler, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre.
Laurie Caillouet, on nous dit que la France est une espèce de berceau, de source pour le reste de l'Europe. Vous nous le confirmez ? Ça veut dire que si nous, déjà, on manque d'eau, c'est extrêmement inquiétant pour le reste de l'Europe.
Ben, on va dire que les frontières des pays n'ont pas forcément de rapport hydrologique. Donc, le climat qu'on a en France, c'est aussi le climat plus ou moins de nos voisins. Alors, à quelques modules près, puisque l'Italie et l'Espagne ont un climat quand même beaucoup plus chaud. Et par exemple, l'Angleterre va être plutôt pluvieux. Mais en fait, la situation, elle se retrouve être assez similaire sur toute l'Europe. C'est vrai que quand on connaît des grandes sécheresses, généralement, elles ne sont pas limitées à la France, elles touchent de manière générale l'Europe continentale. Évidemment, certaines portions de l'Europe sont plus ou moins touchées. Mais là, en ce moment, en fait, ça reste très préoccupant pour une majeure partie des pays d'Europe. Oui.
Le risque que l'eau vire au marron s'approche de plus en plus. Pourquoi, Gilbert Collard, d'après vous, est-ce que l'État n'anticipe pas ? C'est un problème d'anticipation d'État ?
Ben, c'est le fait de gouverner que d'anticiper. On a des services de tous les côtés qui sont là pour informer le gouvernement et qu'ils font bien du reste. Il n'y a pas de négligence de la part des services d'alerte. Les alertes sont données, les scientifiques travaillent, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de prise en compte réelle. Sinon, les problèmes ne se poseraient pas d'une manière aussi archaïque. Quoi. 21e siècle, manque d'eau potable, on a l'impression qu'on est retourné quasiment dans des périodes archaïques, alors que tous les systèmes de signalement hydrologique, climatologique ont parfaitement bien fonctionné. Alors on se demande à quoi ça sert quoi, de d'avoir des services qui informent quand les décisions ne sont pas prises, quand les règles ne sont pas appliquées. Bon, je dis, on parlait des urgences tout à l'heure, c'est valable pour la pénurie d'eau potable. On je ne sais pas ce qu'on... Franchement, je ne veux pas être polémique, hein, mais on se demande qui gouverne, voilà.
Maud Petit, il y a un pilote dans l'avion?
Mais bien sûr, oui. Et heureusement, d'ailleurs. De toute façon, on fait tous le même constat. Même dans ma circonscription, l'année dernière, je me souviens des pluies de mai-juin 2021 qui avaient été très, très fortes et puis qui avaient provoqué des inondations. On va avoir des épisodes de ce genre-là de plus en plus régulièrement, des épisodes de cyclones de plus en plus importants, comme on a vu ce qui s'est passé avec la tempête Irma en 2016 ou 2017, qui avait provoqué un drame conséquent à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On est aujourd'hui à 70% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et qui est dû essentiellement à l'utilisation de nos énergies. Donc, il faut travailler, bien évidemment, du côté des États pour faire en sorte à ce que cette augmentation cesse. Et puis, il faut travailler aussi avec les collectivités territoriales, que les villes prennent leurs responsabilités, que les particuliers aussi agissent pour pouvoir diminuer les gaz à effet de serre.
Mais est-ce que il y a plusieurs mesures qui sont prises. Petit, très concrètement, est-ce que c'est possible pour les particuliers de diminuer avec les petits gestes leurs gaz à effet de serre quand
alors,
de
avec
grandes
de petits
entreprises
gestes, mais...
font déjà énormément
alors,
de dégâts.
Il faut avoir un œil très, très vigilant justement par rapport aux grandes entreprises. Et vous savez justement qu'on a lié les rémunérations des grands des responsables en fait des grandes entreprises à un respect des obligations d'environnement et
de
société.
Ils respectent ces obligations, notre petit.
Alors justement, c'est au rôle des parlementaires de vérifier aussi que tout ça est respecté.
Comment?
Bah, normalement, notre travail ne consiste pas uniquement à aller voter des lois. On en vote beaucoup et je pense, à mon simple niveau, que ce ne sera pas en multipliant les lois qu'on va finalement trouver les meilleures solutions. Il faut être sur le terrain et vérifier que tout, en fait, est appliqué correctement. Comment on le fait? Eh ben, on va visiter les entreprises, on a des indicateurs, on a plein d'éléments, plein d'outils en fait, qui nous permettent de vérifier que les actions qui sont prises, qui sont souhaitées dans ces textes de loi sont bien appliquées sur le terrain.
Laurie Kaoué, est-ce que très concrètement, à notre échelle, en tant qu'individu, on peut faire quelque chose à cette sécheresse, au manque d'eau, etc.? On a un rôle à jouer?
Oui, complètement. Alors, tout le monde a un rôle à jouer en fait, à quelques niveaux que ce soit. La grande différence aussi de cette sécheresse par rapport aux grandes sécheresses qu'on connaît par rapport au siècle passé, c'est le nombre de personnes et les usages. Par exemple, en 1976, il y a eu une grosse sécheresse qui était même bien plus intense au niveau agricole et hydrologique. Mais en 1976, on était 15 millions de moins à peu près. Mmh. On n'avait pas non plus les mêmes types d'usages. On ne consommait pas autant d'eau pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'énergie et en tant que particulier.
Et donc ça va être pire en 2050, hein, ça va être pire, la population va encore augmenter. Donc Laurie Kaoué, est-ce qu'on a les ressources en réalité? Est-ce que la Terre a les ressources pour les gens sur cette planète?
Pas tel qu'on vit actuellement. Enfin, que nous, Français, même d'autres pays, notamment par exemple les Américains, ont une empreinte carbone et eau beaucoup plus importante que les Français, mais les Français en ont une beaucoup plus importante que d'autres pays. Donc tel qu'on vit actuellement, ce ne sera pas possible, puisqu'on a souvent considéré que les ressources étaient illimitées, dont les ressources en eau. Mais on est plus nombreux, on a des usages de plus en plus gourmands en ressources. Et ça, justement, c'est quelque chose qui a atteint un niveau maximum. Et si on continue justement d'utiliser de cette façon-là l'eau de manière générale, bah avec l'accroissement de la population et l'usage, ça va pas coller à un moment donné. Mais à toutes échelles, on peut faire des efforts, puisque évidemment, si une personne fait un effort, ça ne va pas forcément marcher. Mais si 70 millions d'individus font des efforts, évidemment que bien ça sûr. Va marcher. Et si 9 milliards en font, encore plus.
Maud Petit.
Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler aussi quand même quelques actions qui ont été prises sous la mandature précédente et qui vont se poursuivre. Juste rappeler que, par exemple, un tiers du budget de l'Europe est consacré à la transition écologique. On a cessé aussi, on a mis un terme à des opérations, à des projets qui étaient écocides probablement, comme la Montagne d'Or en Guyane, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, comme le T4, le terminal T4 de Roissy. Mm-hmm. On a stoppé aussi l'accord du Mercosur, on a refusé de le signer parce qu'il ne nous donnait pas suffisamment de garanties justement d'aller dans le sens d'une transition écologique. Donc on a ce type d'action. Je voudrais rappeler aussi qu'à la suite de la Convention citoyenne du climat, qui a été instaurée en France en 2019.
Qui a été décriée, Maud Petit, hein, pas
oui.
assez prise en compte apparemment.
Oui,
dans
mais
les,
je voudrais
les,
juste rappeler quand
d'État.
Même que la loi qui en est issue, qui est la loi climat et résilience, qui a donc été adoptée en 2021, propose quand même 305 articles pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Et ça passe par une meilleure façon de se loger, une meilleure façon de se nourrir, une meilleure façon de se véhiculer. Donc il y a des choses qui sont mises en place petit à petit et qui concernent bien évidemment, je le répète, les États, mais aussi les particuliers et les collectivités
vous territoriales. Vous avez parlé, Maud Petit, des individus. Et Laurie Cahoué était d'accord avec vous. Oui. Gilbert Collard, est-ce qu'on doit tout attendre de l'État aujourd'hui, en tout cas en ce qui est... dans ce sujet en particulier, le sujet de la canicule, de la sécheresse, de l'eau, est-ce qu'on doit tout attendre de l'État ou est-ce qu'on doit agir à notre échelle?
Mais d'abord, je crois que c'est très, très malsain de culpabiliser constamment le citoyen qui donne beaucoup, beaucoup, et qui a été déjà très, très pénalisé. Quand on entend l'énumération qui a été faite il y a quelques secondes, des textes, des conventions, des réunions, des articles, le nombre colossal d'articles, et qu'on arrive à la conclusion qu'en France aujourd'hui, en 2022, on manque d'eau potable. Il faut être fou ou alors fuir le réel pour ne pas constater qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas.
Alors qu'est-ce qu'on fait, Gilbert Collard, qu'est-ce qu'on fait
Ah ben on change les gens qui décident. Hein.
Ah oui, bien sûr, ça va régler les histoires de climat, bien évidemment. Vous êtes d'une mauvaise foi absolue, monsieur Collard, comme d'habitude.
Mais oui, c'est ça, mais écoutez, que vous me disiez que je suis de mauvaise foi, venant de vous, comme vous êtes vraiment.
Ah, vous allez me dire que c'est un compliment.
Ça, c'est plaisir, voilà.
Bien sûr.
Cela étant dit, le problème est suffisamment grave que vous gardiez votre eau empoisonnée pour vous et que vous me laissiez parler comme j'ai envie de le faire. Bon. Vous êtes incapable. Voilà la réalité.
Gilbert Collard.
Vous êtes des incapables, c'est tout.
Voilà votre solution, voilà, comme tout à l'heure.
Vous avez énuméré...
Des insultes.
Non, mais ce ne sont pas des insultes, c'est un constat médico-légal. Voilà, vous êtes bon à rien.
Ah, maintenant, vous êtes médecin, c'est bien.
Vous venez d'énumérer pendant un quart d'heure.
Je peux continuer si vous voulez. Donc nous avons aussi le projet de 6 centrales nouvelle génération, la multiplication par 10 de la puissance solaire, 50 parcs éoliens en mer. Nous avons aussi la possibilité de faire de la location de véhicules électriques pour moins de 100 euros par
an. Vous savez, c'est très dur pour les gens qui nous écoutent. Vous savez juste où vous comprenez, vous ne soyez pas d'accord.
Je voudrais simplement pouvoir parler.
Gilbert Collard, finissez.
Le débat, ce n'est pas d'avoir affaire à quelqu'un qui d'abord vous dit que vous êtes de mauvaise foi, alors que le constat me donne raison. L'eau potable manque. Bon,
et vos solutions sont simplement de remplacer les gens qui sont en gouvernance de l'État. Voilà.
Qui récitent des textes qui ne sont pas appliqués. Donc, la question, c'est le manque d'eau potable. Bon, je ne vois pas l'utilité d'énumérer des textes, des conventions, des réunions. Je voudrais savoir pourquoi les mesures concrètes, efficaces, n'ont pas été prises. C'est tout. Moi, je ne suis pas méchant. Hein.
Merci beaucoup à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Laurie Cahoué, hydrométéorologue à Lyon, co-créatrice de la fresque de l'eau. Maud Petit, députée MoDem du Val-de-Marne. Gilbert Collard, député européen, président d'honneur de Reconquête. Merci pour votre présence. Merci pour ce débat, certes animé, mais en tout cas de qualité.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Elle est restée moins de 24 heures, mais cela a suffi à provoquer la colère de Pékin. Après la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, chef des députés des États-Unis, la Chine a démarré jeudi des exercices militaires d'une ampleur inédite. Alors on va essayer ce soir de comprendre les raisons des vives tensions entre la Chine et les États-Unis des derniers jours avec mon invité Lu Shaï, l'ambassadeur de Chine en France. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1. Vous pouvez vous rapprocher du micro pour parler avec nous ce soir. Lu Shaï, très concrètement, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous reprochez à Nancy Pelosi? Vous parlez de provocation inacceptable. Vous nous expliquez en quoi est-ce que sa venue à Taïwan est une provocation inacceptable pour la Chine?
Tout d'abord, entre la Chine et les États-Unis, nous avons trois communiqués conjoints. Le premier communiqué sur l'établissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Et là-dedans, les Américains se sont engagés que les États-Unis d'Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légal de la Chine. Et dans ce contexte, le peuple des États-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Et dans ce cas-là, les États-Unis, après avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine, ne peuvent que maintenir des relations non officielles. Alors, Madame Nancy Pelosi, elle est le troisième personnage du pouvoir fédéral des États-Unis. Mm-hmm. Sa visite à Taïwan n'est évidemment pas une visite non officielle. Son contact avec la numéro une des autorités de Taïwan est aussi un contact officiel.
Donc pour vous, en venant à Taïwan, elle officialise le fait de faire cette visite officielle. Donc elle reconnaît pour vous Taïwan en tant que province indépendante,
donc,
c'est ça?
Donc sa visite est allée en contravention avec l'engagement des Américains et qui plus est, a enfreint le principe d'une seule Chine qui est un consensus universel et une norme fondamentale régissant les relations internationales. Mmh. Donc, avant sa visite, la partie chinoise a fait beaucoup de travail auprès des Américains pour leur demander de dissuader Mme Nancy Pelosi d'annuler cette visite, mais rien n'y fait. C'est pourquoi on trouve très choqué.
Mmh, ouais. Je comprends. Donc ce que vous voulez dire en fait, provocation. C'est que cette visite pour vous est une provocation et que pire, elle affecte les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. C'est un coup de poignard pour vous cette visite?
Oui.
C'est ça.
Un poignard sur le dos, dans le dos.
Vous voulez dire dans le dos, ouais. Quelque chose que vous n'aviez pas vu venir?
Oui, on a prévu. Oui, mais on a déjà fait avertissement. Oui, le président Xi Jinping, lors de son téléphone, de sa conversation téléphonique avec le président Joe Biden, il a dit que la volonté du peuple chinois est inviolable. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Et le porte-parole du ministère de la Défense a dit aussi que l'armée populaire de libération de la Chine ne restera pas les bras croisés.
Ce sont des accusations graves, périr par le feu. Oui, est-ce que c'est un début d'accusation de guerre? Vous pensez qu'on en est là?
Parce que c'est une provocation grave aussi.
Vous avez expliqué, Lou Chaïs, sur LCI, chez nos confrères, hier, que Nancy Pelosi était une gamine inconsciente. Une gamine inconsciente peut-elle déclencher une guerre aujourd'hui? Est-ce qu'on en est là?
Une guerre?
Une gamine inconsciente. Vous avez dit, c'est une femme âgée, mais pourtant dans sa tête, elle agit comme un enfant. Une gamine inconsciente. Est-ce que d'après vous, ouais, Nancy Pelosi, que vous considérez comme quelqu'un d'inconscient, peut être le déclencheur d'une guerre qui nous dépasse tous?
Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'elle est très obstinée. Oui, au mépris des démarches à maintes reprises du gouvernement chinois, elle s'obstine encore à effectuer cette visite. Quitte à sacrifier les relations bilatérales sino-américaines et à mettre à péril la vie de 23 millions d'habitants de Taïwan.
Donc vous maintenez qu'elle se conduit ici comme une enfant gâtée,
cela
c'est ça?
Cela risque, oui, c'est pas un enfant gâté, c'est une
enfant comment dire
une comment dire métamorphose, hein. C'est métamorphose, puis
une métaphore, vous voulez dire.
Une métaphore. Oui.
Alors, quelqu'un vous donne raison, en l'occurrence. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, il s'est exprimé lui aussi. Écoutons-le.
Nous allons élire une liste incroyable de républicains American First et nous allons mettre fin à cette folle de Nancy Pelosi. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle faisait à Taïwan? Oh, elle était le rêve de la Chine. Elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse. Tout ce qu'elle touche tourne à vous savez quoi.
Au-delà des attaques sur Nancy Pelosi, il y a derrière aussi des attaques sur la Chine. Elle leur a donné une excuse. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que c'est une excuse pour rompre les rapports, notamment avec les États-Unis? On pense ici aux accords sur le climat, parce que depuis que Nancy Pelosi est venue à Taïwan, les accords ont été interrompus.
Mais ce n'est pas la Chine qui veut prendre une excuse pour faire quelque chose. Nous avons déjà lancé à plusieurs reprises l'avertissement, n'est-ce pas? Alors, si c'est une excuse pour la Chine, alors pourquoi les Américains nous fournissent cette excuse, n'est-ce pas?
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que le problème vient des Américains et pas de
bien
vous.
Sûr.
Que vous les aviez déjà avertis.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous
la
voulez
Chine
prouver
a dit
ici
que c'est une... Si Madame Nancy Pelosi visite effectivement Taïwan, alors toutes les conséquences seront aux Américains de l'assumer. De
vous
les
voulez
assumer.
Ici prouver une souveraineté nationale.
Oui.
C'est important pour la Chine?
C'est bien sûr. C'est la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale qui sont en jeu.
J'ai une question pour vous, Lou Chaillet. Vous venez ici en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, Taïwan n'est pas un pays à part entière, mais une province chinoise. C'est bien ça. La Chine unie, c'est ce dont il s'agit. Pourquoi ne pas demander, aujourd'hui, aux Taïwanais d'utiliser le référendum, la démocratie, pour savoir si oui ou non ils veulent être chinois? Vous seriez pour?
Alors, si on fait un référendum, on doit le faire dans toute la Chine. La Chine a une population de 1,4 milliard.
Ça veut dire que les Chinois en Chine devraient juger de savoir si Taïwan, oui ou non, doit devenir chinois?
C'est ça.
Mais est-ce que vous trouvez que c'est juste pour Taïwan? D'un point de vue personnel, qu'en pensez-vous, vous, en tant que Lou Chaillet?
Taïwan, la population de Taïwan sont les Chinois aussi.
N'est-ce vous avez dit que cette population...
Donc le destin, l'avenir de Taïwan doit être décidé par tout le peuple chinois, y compris la population Taïwan.
Vous avez dit que la population taïwanaise était endoctrinée. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, c'est le fait. Parce que depuis 10 ans après l'entrée au pouvoir de Mme Pelosi et de son parti démocrate progressiste, les autorités de Taïwan ont effectué une soi-disant éducation de désinisation et séparatiste sur la population de Taïwan.
Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous.
Oui, parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, la majorité de la population de Taïwan était pour la réunification de la Chine. Mais avec cette éducation de désinisation, cette propagande
manipulée
séparatiste...
par les Américains? Manipulée Taïwan par les Américains comme une marionnette, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, je pense que...
Sous leur influence?
Derrière les autorités de Taïwan, ce sont les Américains. Donc avec cette éducation, cette propagande, l'opinion publique à Taïwan a changé, a considérablement changé. On dit que maintenant, la plupart de Taïwanais sont pour l'indépendance. Donc, je pense que c'est une tendance dangereuse.
Donc, pour vous, Taïwan, la marionnette des États-Unis? Qui tient les rênes des États-Unis?
C'est plutôt un pion.
Un
ou
pion.
Bien une marionnette aussi.
Pour aller où, d'après
pour
vous?
Aller à l'indépendance. C'est au service de la stratégie...
Américaine?
Américaine.
Et qu'est-ce qu'ils auraient gagné ici, d'après vous?
Qui?
Les Américains.
C'est évident, parce que les Américains, ils ont une chaîne de l'île, la première chaîne de l'île. Donc, Taïwan, c'est un maillon important.
Le maillon qui manquait peut-être aux Américains?
Le maillon qui importe aux Américains.
Pour vous, aujourd'hui, Taïwan est un État fantoche. Il n'existe pas. Taïwan doit être la Chine.
Oui, bien sûr. Taïwan est depuis toujours chinois.
La Chine ne cédera rien sur Taïwan?
Jamais. Absolument pas.
Jusqu'où iront les Chinois pour que Taïwan reste la Chine?
Oui, nos dirigeants ont dit que ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Et dans notre pays, il y a une loi.
Laquelle est-elle?
Antiséparatiste, qui a été élaborée en 2015. Donc, le gouvernement chinois doit respecter cette loi. Si jamais il se passe une indépendance éventuelle de Taïwan, le gouvernement chinois doit recourir à tous les moyens pour empêcher cette affaire.
Tous les moyens, dont la guerre avec les États-Unis?
Y compris les moyens militaires.
Donc ce que vous nous dites
si
aujourd'hui, c'est que...
Si les États-Unis interviennent, donc ce sera la guerre
ce que vous
entre
voulez dire,
la
c'est
Chine
que
et les
intervention
États-Unis.
Intervention des États-Unis égale Troisième guerre mondiale, c'est ce que vous nous annoncez ici en
je
direct.
Je ne sais pas si c'est la troisième ou combien. Mais
vraisemblablement,
moins,
pour l'instant, il y en a eu deux.
S'il y avait une intervention militaire des Américains,
ouais.
Il y aurait certainement eu une grande guerre. Parce que l'armée chinoise ne cédera pas.
Votre président l'a dit, Xi Jinping. Il s'est donné jusqu'en 2049 pour réunifier la Chine, on va le citer, par la force s'il le faut.
Oui, en 2049, la Chine va réaliser notre deuxième objectif centenaire, à savoir le renouveau complet de la nation chinoise.
Lu Xiaoyi, dans son blog, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le leader insoumis, il a écrit qu'il vous soutenait, que pour lui, il n'y avait qu'une seule Chine, celle qui siège au Conseil de sécurité. Taïwan est une composante à part entière de la Chine, c'est ce qu'il a écrit. Il reprend ici un vocable défendu par votre pays, par Pékin. Vous l'avez remercié par tweet interposé. Moi, je me demande vraiment, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France? Est-ce que vous avez envie de rencontrer, par exemple, Madame Colonna, pour savoir, qui est la ministre chez nous, vous savez, pour savoir s'il y a quelque chose à faire, avancer ensemble, si la France a ici un rôle de médiateur ou plutôt un rôle d'allié?
Nous n'avons pas besoin de médiateur. Alors,
ni médiateur, ni allié?
La Chine est un pays non allié. Non-alliance.
Qui ne fait pas d'alliance avec l'Europe.
On n'a pas besoin d'alliés, on a besoin de partenaires. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je l'apprécie beaucoup pour tenir cette parole, et je le respecte beaucoup. Alors, je me demande aujourd'hui pourquoi en France il y a rarement de personnages qui peut se tenir pour critiquer les Américains pour cette visite provocatrice de Nancy Pelosi. Oui.
C'est un reproche, vous reprochez aux Français de ne pas assez communiquer
moins,
là-dessus.
Il faut critiquer les Américains de faire la provocation.
Parce que pour vous, ils sont critiquables, c'est une provocation.
Bien sûr. Alors, c'est aussi l'attitude et la position de plus de 160 pays et organisations internationales. Ouais. Seulement le G7 qui s'aligne sur la position des États-Unis.
Vous avez dit nous n'avons pas besoin d'alliés, nous avons besoin de partenaires. Si nous ne sommes pas partenaires, qu'est-ce que nous sommes ?
La France est notre partenaire.
Mais si la France n'était pas partenaire sur ce coup-là avec Taïwan, qu'est-ce que deviendrait la France ?
Je ne sais pas. Je pense que la France doit prendre une position plus objective, plus équitable sur cette question.
Donc vous avez besoin de la France sur cette question.
Je n'ai pas vu cette position-là, parce que la France est de concert avec les autres membres du G7 pour critiquer la Chine. Alors, ce n'est pas juste. Parce que la Chine est la victime dans cette affaire.
J'aimerais que nous écoutions ensemble un représentant de Taipei, qui était invité aussi sur l'un des médias français, encore une fois LCI. Il lance une alerte plutôt inquiétante, on en débat juste après. Écoutons-le.
C'est pas seulement poser la question à nous les Taïwanais, qu'est-ce que nous allons faire si jamais la Chine nous attaque, mais c'est tout simplement la fin du monde. Ce sera une nouvelle guerre mondiale. Déjà, le TSMC, c'est l'entreprise qui fabrique les semi-conducteurs à Taïwan, contrôle plus de 70% des semi-conducteurs mondiaux. Alors si jamais la Chine attaque Taïwan, il n'y aura plus de semi-conducteurs. Tout s'arrête.
Si jamais la Chine attaque Taïwan, c'est la fin du monde. Tout s'arrête, dit-il.
C'est pas si grave que ça.
Bon, vous me rassurez.
Taïwan a une population de 23 millions d'habitants. Alors, il a surestimé l'importance de Taïwan dans l'échiquier international. Il a sous-estimé la détermination et la capacité de la Chine de résoudre le problème de Taïwan. Et il a surestimé aussi la fiabilité et la crédibilité des Américains.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que la Chine est prête à tout?
La Chine est prête à tout. Qui veut la paix prépare la guerre.
Qui veut la paix prépare la guerre.
Oui.
Est-ce que vous pensez que Taïwan aujourd'hui prépare la guerre, alors?
Oui, il prépare aussi, peut-être. Hein, mais je ne pense pas que...
Que ce soit judicieux pour eux.
Je ne sais pas leur capacité, mais je pense qu'il y a des experts en Chine, dans l'armée, qui ont certainement un jugement concret sur la situation du détroit de Taïwan, sur la capacité de l'armée à Taïwan, et sur... les intentions ou bien les tentatives des Américains.
Mmh. D'après vous, Taïwan ne fera donc pas le poids face à la Chine ?
Taïwan est très important pour la Chine.
Expliquez-nous pourquoi, Lou Chaye.
Parce que Taïwan, les Taïwanais sont notre compatriote. Taïwan fait partie ou bien sous l'administration de la Chine depuis 230 après Jésus-Christ. Donc, depuis plus de presque 2000 ans, il existe une consanguinité entre la partie continentale de la Chine et Taïwan. Il y a des liens civilisations, culturels, économiques, humaines. Tous les Taïwanais parlent chinois. Et la plupart de Taïwanais viennent du continent de la Chine, y compris Mme Tsai Ing-wen. Elle est d'origine de Fujian.
Mais alors, comment faire la guerre à son sang, à son ADN? Comment est-ce que la Chine pourrait faire la guerre à Taïwan?
Cette guerre ne vise pas la population de Taïwan.
Elle vise les États-Unis?
Vise les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et les forces anti-chinoises étrangères qui soutiennent les forces sécessionnistes. Et cette guerre, ou bien la préparation de guerre, c'est pour dissuader ces forces sécessionnistes de prendre le risque de franchir la ligne rouge.
Deux dernières choses, si vous le permettez, monsieur l'ambassadeur Lou Chaye. Les États-Unis ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan, tout en soutenant le droit de l'île à rester démocratique. Est-ce qu'on est ici dans une vision presque schizophrénique? Est-ce que c'est ça qui vous a alerté?
La question de Taïwan n'est pas une question de démocratie ou pas. C'est une question concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Donc, pour les Américains, ils ont une apparence de respecter le principe d'une seule Chine. Mais en réalité, ils ont déjà vidé, obscurci et dénaturé ce principe. Ils ont inséré beaucoup de choses d'eux-mêmes.
Rassurez-nous, on est toujours amis en France avec la Chine pour l'instant, même si on ne prend pas position?
Oui, vous savez, la Chine reste toujours sincère vis-à-vis de la France. Même si la Chine n'a jamais fait de choses au détriment des intérêts de la France. Même si la France, sur de différents sujets, a fait... des choses ou bien a pris des positions préjudiciables aux intérêts vitaux de la Chine. Mais comme la France est un pays qui a une tradition d'indépendance, d'autonomie, depuis le général de Gaulle, la Chine considère toujours la France comme notre ami, notre partenaire. Et nous espérons toujours collaborer avec la France, tant sur le niveau bilatéral que sur le plan international.
Une dernière chose, un point sur la guerre en Ukraine. Vous êtes impacté par le manque de céréales ukrainiennes également. Quelle est votre position là-dessus?
Le manque de céréales, nous n'avons pas de ce problème-là, mais nous sommes préoccupés de la situation de la crise ukrainienne qui a une influence et un impact international qui a créé la crise énergétique, la crise alimentaire, et nous souhaitons depuis le début résoudre ce problème par voie pacifique, par voie de dialogue. Et je connais que la France a fait beaucoup d'efforts et nous encourageons la France et les autres pays européens de continuer cet effort de promouvoir le pourparler de paix.
Vous serez le partenaire ici de l'Europe ?
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Lou Chaillet, d'avoir accepté mon invitation sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Chine en France. Merci, monsieur.
Je vous en prie.
À suivre sur Europe 1, on se pose cette question très simple. Comment redonner durablement du pouvoir d'achat aux Français ? Restez bien avec nous.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Il est presque 19h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. Cet été semble être celui de tous les dangers. Le réchauffement climatique qui nous challenge, l'inflation qui atteint les 6%. L'ombre de la rentrée est déjà présente au moment où les Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour en débattre. Mes invités, William T, bonsoir.
Bonsoir.
Président du think tank Le Millénaire, Vincent Jeanbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Maire libre de L'Hérault, Sébastien Rome, bonsoir.
Bonsoir.
Député LFI de L'Hérault. Et puis au téléphone, trois autres invités. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle. Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord. Guyenne Brohan, présidente de la Fédération Nationale Famille Rurale. Merci à tous d'être avec moi ce soir. Le pouvoir d'achat, c'est 20 milliards d'euros pour mettre en place des mesures pour lutter contre l'inflation, pallier aux conséquences de la guerre en Ukraine. Est-ce que ce sera suffisant, William T?
Je pense que ça permet de répondre à un besoin qui est conjoncturel dans la mesure où on a un effet de rattrapage sur la question de l'inflation. Est-ce que ça permettra de répondre, je pense, à la crise existentielle qui notamment a démarré lors de la question des gilets jaunes, en fait, qui était une manifestation et un soulèvement des classes moyennes vis-à-vis du système actuel dans la mesure où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les classes moyennes ont été paupérisées depuis une trentaine, quarantaine d'années liées au phénomène de désindustrialisation, etc. Est-ce que ça permettra de leur permettre de faire un nivellement par le haut? Je ne pense pas et je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron avait la majorité politique pour pouvoir porter ce type de projet. Je pense que l'essentiel qu'il devait poser, notamment au, ce qu'il avait appelé à l'époque au Conseil national de la refondation, c'est de permettre de proposer une perspective en fait, aux classes moyennes inférieures et aux classes populaires pour leur permettre de se niveler par le haut. Ça va jouer sur trois piliers. La question de travailler plus tout au long de la vie et de travailler plus sur le plan hebdomadaire. La question du taux d'emploi pour baisser et atteindre l'objectif du plein emploi. Parce qu'en fait, ce qu'on montre notamment dans les études internationales, c'est que quand un pays arrive aux situations de plein emploi, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, vous avez les salaires qui augmentent mécaniquement de la mesure où vous avez une pénurie sur les métiers dits bas qualifiés. Et donc, du coup, face à cette pénurie, les entreprises proposent plus d'argent pour augmenter et de recruter plus de personnes. Et après, il y a un troisième sujet, c'est la question de l'investissement et de la recherche, en fait, pour permettre un nivellement par le haut, dans la mesure où on proposerait des produits de meilleure qualité, et ce serait une sorte de révolution industrielle 2.0. C'est-à-dire qu'on permettrait d'avancer sur des nouvelles technologies, spécialiser la France dans la recherche, dans des secteurs ultra spécifiques, avec des métiers qui rapporteraient beaucoup plus, avec beaucoup plus de marge, pour élever et tirer toute la société par le haut, à la fois par l'éducation, par l'économie et la recherche.
Sébastien Rome, le salaire, c'est le nerf de la guerre. On y est là ?
Oui, effectivement, mais en tout cas, on n'y est pas du tout dans les propositions qui ont été faites. Mmh. L'inflation est de 6%, elle va être certainement
elle
autour de 7% à la fin de l'année. Mais la hausse des salaires, c'est 3%. En fait, ce qui veut dire que ça a été calculé par 60 millions de consommateurs. Ça va représenter un SMIC perdu à la fin de l'année par les Français. Voilà, donc on n'est pas sur des mesures de pouvoir d'achat, on est sur des mesures de perte de pouvoir d'achat. Bon, voilà, ça a été dit. En plus, cela a fait suite à de nombreuses années où on a de la perte de pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes l'a démontré. Eh bien, en fait, le gouvernement avait le choix, soit pouvoir soutenir les rentiers, soit pouvoir soutenir bien les salaires et les personnes qui travaillent. Eh bien, il a choisi les rentiers. Voilà quelle est la conclusion de cette syncase politique qui a donné du pouvoir d'achat aux plus riches.
Laurent Jacobelli, le gouvernement a soutenu les rentiers. Vous êtes d'accord avec Sébastien Rome ?
Bon, en tout cas, le gouvernement a joué petit bras hein, au moment où il fallait refonder, je pense, la manière dont on voit le travail, dont on voit l'économie dans notre pays. Il a apporté des chèques essence, des chèques alimentation, ce qui d'ailleurs, dans la sixième puissance du monde, est un peu terrifiant. Je crois que ce gouvernement est passé à côté du problème. Il a cru que la perte de pouvoir d'achat et le mal-vivre d'un certain nombre de Français, économiquement en tout cas, étaient dus à des problèmes purement conjoncturels. Or, il y a des problèmes structurels. Il faut revaloriser les salaires, vos interlocuteurs l'ont dit, c'est pour ça que nous on a proposé à l'Assemblée nationale de proposer de revaloriser les salaires de 10% et que ces 10% soient exonérés de charges patronales par exemple, et des mesures pérennes comme la baisse de la TVA sur les énergies par exemple, parce qu'il y a quelque chose de paradoxal de voir l'État s'enrichir quand le prix de l'essence flambe et les Français s'appauvrir. Le gouvernement n'a pas compris qu'il fallait une réforme de grande ampleur. Il a bricolé en donnant de-ci, de-là quelques gages. C'est largement pas suffisant et la rentrée va être malheureusement très dure pour les Français, surtout si le gouvernement s'entête avec sa réforme des retraites, sa réforme des indemnités chômage et sa réforme du RSA. Il va plonger les classes les plus défavorisées sur le bord de la route et les classes moyennes elles-mêmes vont se paupériser. Le gouvernement doit réagir et réagir vite.
Vincent Jeanbrun, est-ce que 10% d'augmentation de salaire, c'est finançable? Est-ce que c'est réalisable, d'après vous?
Ça ne me paraît pas réalisable en l'état. Maintenant, on a des mesures qui étaient nécessaires, plus ou moins fortes. Elles ont été votées et elles feront du bien à un certain nombre de Français. Mais c'est une pommade dont l'effet va être très court, parce que la crise, elle est encore devant nous. Le pire, à mon sens, est devant nous et il va falloir être capable, comme vous le dites, de trouver des solutions pérennes et finançables. Parce que quand le député RN nous dit il y a l'État d'un côté et les Français de l'autre, non, tout ce qui sort de la poche de l'État, c'est d'abord de la poche des Français que c'est sorti. Donc c'est quand même ça l'enjeu. Et il faut financer. Financer, c'est donc être raisonnable et surtout remettre les gens au travail. Ça a été dit par William Tay tout à l'heure, il va falloir que le vrai pouvoir d'achat, aille le chercher là où il est. Pas par des chèques alimentaires, mais par une capacité à remettre la France au travail. Et ça, il y a urgence, et là-dessus, effectivement, on est encore un peu sur notre faim.
Laurent Jacobelli, vous n'avez pas beaucoup de temps avec nous ce soir. Une dernière question. On vient d'entendre Vincent Jeanbrun ici. Ah, Laurent Jacobelli n'est déjà plus avec nous. Bon, eh bien, écoutez, on va le remercier. On vient d'entendre Vincent Jeanbrun à l'instant qui nous expliquait qu'il faut remettre la France au travail. Quand on voit le rachat des RTT, vous savez, les RTT, quand on ne les prend pas, moi, le gouvernement a dit, voilà, vous avez la possibilité de les racheter. Mais est-ce que ça... c'est pas contre-productif? Est-ce qu'on ne dit pas aux Français, vous voulez avoir plus d'argent? Bon, ok, mais à ce moment-là, on ne se repose pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien Homme?
Effectivement, on est vraiment sur une mesure qui est à l'antipode de ce qu'il faudrait faire. Revaloriser les salaires, ça serait le meilleur moyen de répondre à la crise actuelle, notamment à celle du logement.
Mais par contre, vous financez comment cette revalorisation des salaires?
Parce qu'on n'est pas, apparemment, en tout cas, comment fait l'Allemagne? 23% d'augmentation du SMIC sur un an, alors que l'inflation chez eux est de 12%.
Alors que le député travaille beaucoup plus que nous.
Alors que l'inflation chez eux est de 12%. Le Royaume-Uni a augmenté les salaires. L'Espagne a augmenté les salaires. Comment le font-ils aussi? Eh bien, ils le compensent par le fait de taxer notamment les surprofits. Même l'ONU l'a déclaré. Il n'est pas logique. Ce n'est pas seulement l'argent de l'État, des Français qui tournent tout seuls. Il y a aussi quand même des grands groupes qui font de méga profits et ils font ces méga profits.
Si vous pensez...
mais Total n'a pas créé de nouvelles valeurs, Total profite de la crise, profite de l'inflation pour augmenter ses marges. Eh bien, ces marges-là, elles pourraient être réinjectées dans le portefeuille des Français.
Je vais vous faire le calcul. On vous a posé la question sur combien coûterait. Vous avez proposé une augmentation des salaires de 10%, c'est ça, à peu près.
C'était Laurent Jacobelli, 10%, voilà. Mais vous étiez d'accord, Sébastien.
Pour 1500 euros. Oui.
Vous êtes encore plus. Si c'est une augmentation de 10%, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an.
On les trouve où, William T?
Justement, je vais lui poser la question, parce que sur la taxation des super profits, Total, si vous prenez tout, c'est-à-dire que vous récupérez 10 milliards d'euros par an. Au maximum. C'est-à-dire qu'il vous manque 70 milliards. Comment on fait?
Comme l'Angleterre. Pourtant, ce n'est pas un pays extrêmement gauchiste.
L'Angleterre a augmenté ses salaires
et a créé de l'emploi. On remet de l'emploi.
Non, mais l'Angleterre, contrairement à ce que vous dites, est plutôt ce que vous qualifierez d'un pays ultra-méga-libéral, avec des personnes qui sont en plein emploi sur des situations de mini-job.
Mais c'est pas la même situation. C'est un pays réaliste d'un point de vue économique. C'est-à-dire relâché par
les salaires. Vous savez, messieurs, on va trancher.
Les sont fans de l'Angleterre.
Mais on va trancher, on va demander concrètement à Guylaine Brun ce qu'elle en pense. Elle est présidente de la Fédération nationale de familles rurales. Elle le vit, le petit salaire au quotidien. Elle a l'habitude, elle gère des gens comme ça. Guylaine Brun.
Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, que c'est une réelle difficulté pour les salariés du milieu rural de se déplacer.
40% plus de dépenses de carburant dans le milieu rural. Et ça, faut vraiment en tenir compte. Et il faut vraiment que le gouvernement ait des aides ciblées pour aider les personnes qui se déplacent dans le milieu rural.
Alors, ça, Guylaine, c'est vraiment une justement, demande, oui. Il y a Violette Spielboot qui est avec nous, elle est députée Renaissance du Nord. Violette, est-ce que cette mesure...
Oui, bonjour.
Bonsoir. Est-ce que cette mesure des 30 centimes de ristourne à la pompe, c'est suffisant? Parce que ce sera en septembre, en octobre. Après, c'est fini, hein. Il y a 10%. Donc, quand on a des personnes comme ça, notamment chez Famille Rurale, vous savez, les aidants, on fait comment pour les aider, ces aidants, qui ne peuvent pas se déplacer?
Eh bien, effectivement, c'est vraiment, en tout cas, les travailleurs, ceux qui utilisent la voiture, qui subissent le plus, hein, l'augmentation du prix de l'essence. Donc, cette ristourne de 30% sur laquelle on s'est mis d'accord avec le compromis à l'Assemblée nationale de 30 centimes, elle va être complétée, effectivement, par Total 20 centimes. Elle est complétée aussi par d'autres groupes comme Leclerc ou d'autres marques qui font des efforts pendant des périodes données, mois d'août, mois de septembre. On espère que ça va continuer. Pour les entreprises qui font du profit, comme le disait monsieur juste avant, nous continuons de maintenir une pression pour que ces gains soient redistribués par une baisse de prix aux consommateurs. C'est surtout là-dessus que nous serons vraiment très vigilants. Et puis, pour ces travailleurs qui sont parfois avec des bas salaires, des temps partiels, nous avons aussi la prime d'activité. La prime d'activité, elle est augmentée grâce à cette loi pouvoir d'achat de 4%. Et puis, on a la prime de rentrée qui a été le fruit d'un accord entre les sénateurs et les députés pour que chaque famille puisse avoir 100 euros qui seront versés directement dès le 1er septembre avec 50 euros en plus.
Vincent Jeanbrun.
C'était important de voter ce texte pour qu'on ait tout de suite là, une réponse court terme, mais vous voyez bien, et c'était l'interpellation que nous a fait la personne juste avant, que ça s'applique de manière générale partout sur le territoire sans distinction. Et c'est pas la même chose quand on vit au cœur d'un arrondissement parisien où on a le métro et les transports en commun et quand on est dans des territoires ruraux où la voiture est le seul mode de transport. Et c'est vrai que là-dessus, la loi a été prise en urgence, donc je cherche même pas à la critiquer, mais on espère qu'il y aura un troisième volet pouvoir d'achat qui sera capable de faire un peu plus de sur-mesure et notamment de prendre en considération des situations aussi difficiles que celle-ci.
Est-ce qu'on était sur le « et en même temps » parce que « et en même temps », on doit gérer les conséquences de cette guerre en Ukraine, on a un gros problème d'inflation en France. Puis en parallèle, on n'a peut-être pas non plus les moyens de tout financer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Faut établir des priorités.
Que ça, c'était une priorité ?
Moi, je pense en fait que si par cas, le prix de l'essence augmente trop vite et de façon trop importante, on assistera à ce qu'on appelle le troisième choc pétrolier. À l'époque, le second choc pétrolier, les deux chocs pétroliers, avaient conduit la France de passer des 30 glorieuses aux 40 piteuses, donc ce qu'on a récemment, c'est-à-dire 40 ans de stagnation de croissance économique. Donc effectivement, dépenser 10, 20, 30 milliards d'euros pour éviter une récession sur les 10, 20 prochaines années, je pense que c'est rentable, et quitte même à maintenir un niveau de prix de carburant, un niveau stable inférieur à 1,80€. Pourquoi est-ce qu'il faut faire 1,80€ C'est en fait tout le surplus des 1,80€, ce serait compensé par une baisse de taxes progressive.
Sébastien Rome, vous êtes d'accord ou est-ce qu'il faut baisser tout de suite toutes les taxes ?
Alors, d'abord, effectivement, il faut le rappeler, hein, cette inflation, elle pèse pas de la même manière partout sur le territoire. Elle pèse bien d'abord sur les agriculteurs, elle pose d'abord sur les Français qui vivent dans la ruralité. Moi, c'est un territoire d'où je viens et je le vois très clairement, et j'ai des électeurs qui m'ont interpellé et qui m'ont dit « Eh bien, je renonce à travailler parce que j'habite à 50 km et donc, du coup, ben, aller-retour 100 km par jour, ce n'est plus possible. » Donc, le gouvernement est toujours en train de courir derrière l'inflation en ce moment et donc il ne répond pas réellement à sa juste hauteur.
Mais le blocage des prix
était possible. Ça fait deux fois qu'on fait une baisse. On va le faire une troisième fois, une quatrième fois, à chaque crise ? Non. On a un blocage des prix qui est possible. Ça peut être compensé par Total. Total fait des surprofits. Eh bien, voilà. Il peut financer les surprofits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la prime Macron telle qu'elle est proposée, l'année dernière, c'est 4 millions de Français qui n'ont touché que 500 euros. On a relevé le plafond on a triplé le plafond. Mais la réalité, c'est que c'est le sol qui est en train de s'effondrer. C'est les salaires depuis bien trop longtemps qui n'augmentent pas, qui sont tassés en France.
Guylaine Brohan, vous êtes toujours avec nous. En réalité, ce que vous voulez nous dire, c'est que au moment où l'hôpital va mal, où il y a de moins en moins d'aidants, est-ce que les gens qui travaillent à Famille Rurale, qui travaillent pour vous, vous êtes une association, n'est-ce pas ? Est-ce que ces gens-là vont presque se dire, en fait, ça vaut plus le coup de travailler ?
Ça coûte cher, donc on réfléchit à deux fois. Mais ce qui pourrait se faire actuellement par rapport, le gouvernement, il faudrait vraiment qu'il aille dans un plan de mobilité. pourquoi ne pas développer encore plus les moyens de transport dans le milieu rural ? Parce que c'est vrai, on dit que ce n'est pas rentable, donc on supprime des lignes de chemin de fer. Voilà.
Vous parlez des TER là notamment, hein, c'est
les
ça
Les TER, c'est ça. Donc il faut vraiment permettre, et je pense que ça serait un vrai gain du pouvoir d'achat des personnes du milieu rural, de pouvoir se déplacer en moyen de transport collectif.
Ben on va vous le demander, Violette Spilbou. Est-ce que vous seriez pour, justement, le fait de repenser, de recréer ces transports locaux, régionaux, redonner du pouvoir à la région et donc redonner du pouvoir d'achat aux gens qui habitent dans la région ?
Violette. Vous citez le sujet. Oui, vous m'entendez ?
Allez-y,
oui,
on vous entend.
Oui, effectivement, d'abord, le sujet des aidants en milieu rural est un sujet moi, auquel je suis très sensible, même si je ne vis pas en milieu rural. Je connais beaucoup d'aidants, de personnes qui travaillent à domicile et qui sont vraiment dans la difficulté à cause de sujets de transport. Donc, il y a une première chose dont on n'a pas parlé juste avant, c'est l'aide que l'employeur peut apporter avec le forfait carburant défiscalisé à chacun de ses employés qui était passé de 200 à 400 euros, là, avec la loi pouvoir d'achat, donc qui a été augmenté. Il y a une deuxième chose, c'est le forfait mobilité durable pour ceux qui ont des moyens de transport et qui vont pouvoir avoir une aide sur les transports en commun qui va être augmentée. Et puis la troisième chose, vous l'évoquez, c'est l'aménagement du territoire. Ça, c'est un vrai partenariat entre les présidents de région et l'État. C'est bien les régions qui ont la compétence des TER, du nombre d'arrêts, de la régularité, de la capacité des trains qui doit augmenter dans beaucoup de régions. Moi, dans les Hauts-de-France, on le sait, on a un président de région qui a plutôt tendance à faire des économies sur des zones où on aurait besoin d'avoir beaucoup plus de TER en fréquence. Et il y a ce travail à faire entre l'État, la SNCF et la région pour qu'il y ait plus de fréquences et des trains à l'heure pour des travailleurs qui n'ont pas le choix. Donc tout ça, c'est une vraie politique globale d'aménagement du territoire. Et puis ce sujet de la mobilité et des personnes aidantes, il est particulièrement sensible aussi parce qu'elles sont souvent à temps partiel. Et là-dessus, il faut qu'on réussisse à augmenter leur nombre d'heures pour qu'elles aient un salaire beaucoup plus décent.
Vincent Jeanbrun, je vous donne la parole tout de suite, William T. Vincent Jeanbrun, est-ce que en fait, c'est le serpent qui se mord la queue là, on se passe le bébé ? Non, c'est la région. Non, c'est l'État.
Moi, je suis conseiller régional d'Île-de-France. Je suis effectivement très surpris. Je pense que Madame la députée ignore peut-être, mais il y a ce qu'on appelle un contrat entre l'État et la région. Et certes, c'est la région qui a la compétence pour avoir le leadership sur le projet, mais l'État finance et cofinance. Et on a vu ces dernières années, je ne sais pas précisément de quoi il en retourne dans les Hauts-de-France, mais à mon avis, c'est tout à fait similaire à ce qu'il y a en Île-de-France, c'est-à-dire que l'État n'est pas au rendez-vous. C'est vrai sur les transports, c'est vrai sur énormément d'autres sujets. L'État n'a fait que se désengager, laissant aux collectivités, que ce soit les mairies, moi je suis maire, ou les régions, ou les départements. Et il y a un véritable enjeu, d'ailleurs, dans cette loi pouvoir d'achat. On a un peu oublié les collectivités qui sont souvent au premier rang, parce que c'est dans les villes qu'on a les CCAS, les centres communaux d'action sociale, où on va donner des bons alimentaires. Les départements sont en charge des RSA. Bref, les collectivités ont été totalement oubliées et c'est finalement souvent elles qui viennent aider les plus démunis dans notre pays.
La droite appelait de ses voeux, notamment les Républicains, de repenser aux collectivités. William T, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux propos tenus par Madame la députée de Renaissance. Les régions n'auront pas la capacité à faire ce qu'a demandé Madame la Présidente de la Fédération des soignants. C'est impossible. C'est impossible. En fait, il faut repenser l'aménagement du territoire. C'est ce qu'aurait dû faire François Bayrou quand il a été nommé commissaire général au plan. En fait, il faut faire un nouvel aménagement du territoire et ça supposera non pas un investissement par rapport au budget de la région. Enfin, vous allez me le rappeler, mais ça doit être 2-3 milliards. Ça ne suffira absolument pas.
Pour vous, c'est une refonte profonde.
Ah non, mais pour moi, c'est une refonte profonde. Et en fait, si le gouvernement avait annoncé, notamment au début, ils ont quand même mis 3 ministres de la planification, de la transition énergétique, pourquoi est-ce que ces ministres-là n'imaginent pas, avec le commissaire au plan, une nouvelle architecture territoriale ? En fait, on sait que la société française est organisée autour de métropoles. Et donc, les métropoles concentrent les richesses. Et pour connecter les métropoles aux territoires ruraux, il faut créer une architecture globale de transport. Et est-ce que les régions auront les capacités de financer dans la mesure où elles sont grévées chaque année financièrement ? C'est impossible. Il n'y a que l'État qui a la capacité d'emprunt financier de façon assez importante et d'imaginer un effort collectif de façon globale. C'est ce qu'avait fait le général de Gaulle au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron avait promis en juillet 2020, avec la crise sanitaire, sont aujourd'hui au retour des jours heureux, et bien aujourd'hui l'effort n'est pas au rendez-vous dans la mesure où il n'a pas imaginé le monde de demain. Mais quand on imagine le monde de demain, connecter les métropoles aux banlieues et aux territoires ruraux, ça suppose un effort de l'État et c'est un effort qui doit être national.
Sébastien Rome.
Quand on regarde la carte Quand on regarde la carte du réseau ferré il y a un siècle, on voit qu'on a perdu extrêmement, enfin beaucoup de temps effectivement. Mais cette planification que l'on appelle de nos voeux, qui donnera du travail parce qu'on a les savoir-faire en France, effectivement, on peut reconnecter l'ensemble du pays et tirer l'ensemble de l'économie vers le haut, parce que les gains de productivité que nous ferons plus tard sur l'économie de l'écologie, sur l'ensemble de, sur l'agriculture, ça va partir des territoires ruraux. Mais ça ne répond pas à l'urgence actuelle. Et là, ce sont les salaires, et notamment sur les aidants, très clairement, les salaires jouent sur le fait qu'ils peuvent renoncer à aller voir et aller aider nos aînés.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle, Violette Spielbout, député Renaissance de Lille, Guyenne Brault, président de la Fédération Nationale Famille Rurale, Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault, William T., président du Think Tank et le millénaire, Vincent Jeanbrun, maire libre de Les Roses.